André Sanchez pour Jean Lambert, Marie Lebeau pour Sophie Campagne, Laurent Capelletti pour Ariane Sanchez-Bresson, Dan Muller pour M. Sanchez-Dominique, Barbara Guillot pour Jacques Ravert, Laurence Julie qui nous rejoindra pour Laurent Poupoir, Corinne Maillard pour Caroline Favier et Claude Chabel pour moi-même.
Combat-nous.
Excusez-moi, vous en avez l'autre ? Oui. Et Madame Rabinovici pour monsieur. Pour monsieur Bourguet. Madame Rabinovici pour monsieur Bourguet. Voilà, je n'avais pas le document. On vient de le recevoir. Donc, je vous propose d'approuver le dernier procès verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques écrites. Il y en a-t-il en séance ? Non, je vous remercie. Donc, je le considère comme définitivement adopté sans réserve. Et nous allons attaquer donc l'ordre du jour. Qui est assez chargé et qui, comme d'habitude, commence par les décisions municipales. Vous avez à tous les yeux la présentation. Alors, on a Mme Comanos, oui.
En préambule, je pense que je ne suis pas la seule. Mais il me semble que beaucoup de monde ont eu des difficultés pour lire les pièces de l'ordre du jour. Et donc, ça serait judicieux qu'on puisse travailler sereinement.
Je suis d'accord, madame, qu'on travaille sereinement, on essaie de le faire. Qui a eu des problèmes d'ouverture ? Est-ce qu'on peut identifier ces problèmes?
On a des bugs d'appli, elle a été mise à jour sur l'Apple Store hier.
Oui.
Mais sur certains, ça passe très bien, et d'autres, on ne va pas expliquer. Donc là, c'est pas au point encore.
Parce que selon le jour.
Les convocations, ça y est, merci beaucoup. Donc, les convocations,
selon
vous les avez.
Le jour, ou selon l'heure du même jour. On a la connexion ou on n'a pas la connexion, donc c'est difficile.
Oui, alors, on va vous rappeler le principe des convocations.
Quand on vous envoie la convocation, en fait, il faut télécharger tous les documents. Une fois que vous avez téléchargé les documents, ils sont sur votre support, ordinateur ou tablette. Vous ne travaillez pas en réseau ensuite. Une fois que vous avez enregistré tous les documents, l'ordre du jour et les délibérations, vous les avez sur la tablette et ils y restent.
Donc, ça va. Hein?
La seule chose, c'est que l'accessibilité, justement, à la possibilité de télécharger ces documents, je ne les ai eus que vendredi. J'ai bien eu le mail pour la convocation, mais l'accessibilité aussi, que je n'ai pu avoir accès aussi.
Alors, absolument, donc.
Moi, j'ai des pages noires, j'allais encore des pages noires.
Vous nous avez appelé, et donc on est en train. Il y a un certain nombre de problèmes liés à ce logiciel qui est toujours en phase de déploiement, on va dire, pour rester simple. Et donc nous allons faire une évaluation du fonctionnement de ce logiciel pour voir si les problèmes sont supérieurs aux gains. Nous changerons de système. Effectivement, c'est une phase test un peu pénible, mais surtout, alors j'ai donné des consignes très strictes à l'ensemble des services d'être à votre disposition dès que vous avez un problème. Tous les services, j'espère, là sont à votre disposition pour vous donner les documents, soit papier, soit pour vous les renvoyer par mail.
Non, mais les services ont été très bien, mais malgré tout, pour nous, c'est compliqué. On reçoit les trucs le mardi, pour le conseiller le lundi. Si on ne peut pas les ouvrir avant le vendredi, c'est difficile, quoi.
Bien, écoutez, M. Bruguet, nous y travaillons, et comme on vous dit, si la solution adoptée n'est pas la bonne solution, on reverra notre manière de faire. Donc, nous revenons dans aux décisions municipales. La plupart, comme vous avez pu le constater, sont relatives aux animations, soit des médiathèques, soit de la culture, soit par rapport à la période des animations de Noël. Et ensuite, nous avons les décisions municipales relatives au marché public. Bon, c'est la fin de l'année, il y en a un petit peu moins. Donc, vous avez les procédures adaptées entre 25 et 90 000, dont c'est l'acquisition de véhicules. Et celles qui sont supérieures à 90 000 euros sont relatives à la restauration et la mise en valeur du bâtiment du château des Comtes de Melgueil. Et ensuite, la dernière est relative au marché de maintenance et des systèmes de sécurité anti-intrusion et contrôle d'accès. Voilà, donc je vous propose de passer, sans plus tarder, au projet de délibération numéro 1 que va vous présenter Caroline Favier, relative à la décision modificative numéro 1 au budget principal de la commune.
Caroline. Donc il s'agit simplement d'un ajustement de crédit. En effet, dans le cadre des travaux d'aménagement du carrefour giratoire pour l'accès au magasin de Lidl, c'est-à-dire sur la départementale 24-8, pour un montant de 70 200 euros, donc là il suffit de changer de ligne budgétaire, tout simplement, pour que pour respecter la réglementation des marchés publics. Le deuxième montant, c'est dans le cadre de l'acquisition d'un logiciel de gestion financière et de ressources humaines, pardon, où il faut, même chose, modifier la ligne de budget. Et le troisième point, c'est dans le cadre des annulations de titres sur l'exercice antérieur, la ligne, pareil, budgétaire doit être complétée à hauteur de 7 500 euros. Donc là, il s'agit uniquement d'écriture comptable. Il vous est donc demandé de bien vouloir adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal.
Très bien. Donc je vous propose d'adopter cette décision modificative. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Une abstention? Monsieur Pradet. Projet de délibération numéro 2 relative à l'amortissement de la subvention départementale pour le port de Carnon.
Là, c'est tout simple aussi. C'est l'intégration de la fin de la subvention pour les travaux qui sont associés. Donc la fin des paiements était en 2016 et nous devons donc intégrer la dernière partie de la subvention à partir de janvier 2017. Et pour le montant de 5 085 euros. Donc il vous est demandé de bien vouloir adopter la décision modificative.
C'est bien. Vous êtes, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 3, elle est relative aux amortissements.
Toujours pour le port de Carnon. Alors c'est exactement le même procédé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intégrer les amortissements non prévus initialement au budget primitif de 2017. Donc c'était pour les travaux des pontons GHI, achat des racks pour le stockage à terre et la barrière de parking. Même chose, la fin des travaux ayant été payée en 2016, on doit donc amortir à partir du 1er janvier 2017. Donc, il vous est demandé de bien vouloir adopter cette modification au budget du port de Carnon.
Passe au vote, madame. Alors, contre? Abstention? Je vous remercie. Bonsoir, madame.
Le projet numéro 4.
Point numéro. Délibération numéro 4, cotisation foncière pour les entreprises, toujours au port de Carnon.
Alors, là, il s'agit d'un dégrèvement auquel le port de Carnon a droit, comme toute autre entité, par rapport à cette taxe. Donc, c'est la demande par rapport aux services fiscaux de bien vouloir appliquer ce dégrèvement à hauteur de 66 000 euros.
Pas de vote, contre, abstention. Je vous remercie. Deux abstentions. Monsieur Bonpris. Travaux de dragage, projet de délibération numéro 5.
Alors là, c'est une provision de 200 000 euros supplémentaires, puisque vous savez que le port de Carnon voit ces dernières années une accélération de l'envasement de ces bassins portuaires. Il y a eu une estimation de fait par le bureau d'études SAFEJ pour pour le montant des travaux, qui est entre 3 740 000 euros hors taxes et 6 495 000 euros hors taxes. Donc, il a été fait, il est fait régulièrement chaque année des provisions, et celle de cette année est de 200 000 euros, sachant que 642 000 euros ont déjà été faites jusqu'à cette année. Donc, il vous est demandé de bien vouloir valider cette nouvelle provision de 200 000 euros.
Oui, sachant que nous continuons les démarches auprès de l'État, de la préfecture, qui nous a reçus, qui a reçu les services il y a 3 semaines de cela, pour justement trouver une solution. Peut-être avec Villeneuve et les Maguelones, il y aurait une possibilité pour amener à 7, en sachant que plus tard, également, les travaux qui se feront à la Grande Motte nécessiteront pas mal de sable donc, et de sédiments. Donc, les services de l'État doivent nous donner une réponse. Ils sont bien conscients que les sommes envisageables en termes de dragage, si elles restaient en l'État, seraient insupportables aussi bien pour le budget du port que de la commune. Donc, nous espérons instamment qu'une solution transitoire sera trouvée. Nous sommes en train de procéder à des relevés bathymétriques sur le triangle de la Branche afin de vérifier qu'il y a des zones qui peuvent admettre des dépôts au titre du déferlement ou de la submersion marine. Voilà. Ensuite, l'État lui dira si d'autres servitudes peuvent gréver cet espace. En tout cas, il semble que cela soit possible, mais pour le moment, nous n'y sommes pas autorisés. Vous avez une question, comment ?
Oui. J'ai été très intéressée de voir que, en effet, l'envasement du port avait subi une accélération. Et depuis quelque temps, depuis même de nombreuses années, je demande que l'on étudie le cycle du transport des sédiments et des alluvions à travers les étangs et jusqu'aux plages. L'organisation du territoire a créé des blocages des sédiments dans les étangs alors qu'on a besoin de ces mêmes sédiments et de ces mêmes alluvions pour nourrir la dérive littorale. Et donc, bien sûr, ces travaux sont nécessaires. Mais il est regrettable, quand on étudie les papiers, que le débouchage, je dirais, de l'étang de l'Or ne soit pas pris en compte. Et vous êtes parti, lorsqu'on a annoncé les travaux au nord de Moguio, enfin, là vous étiez là, mais quand il s'agit de parler du débouchage du canal du Gros de Carnon, vous n'étiez plus là. Véritablement, on a besoin que globalement tout le bassin versant étudie le transport des alluvions et leur sédimentation jusqu'à la mer, parce que comme à la mer il y a la dérive littorale, on est complètement, on se retrouve avec de l'usure de la côte. Voilà. Et donc,
on partage, Madame Comaros, on partage ce constat, M. Cassard était présent. J'ai demandé à l'État, effectivement, que dès lors que cet envasement n'était plus un envasement consécutif à ce qu'un port peut subir, comme ça, et qu'il était peut-être une grande partie imputable au bassin versant, et je ne mets pas de côté les travaux que VNF a fait sur le canal, et qui ont contribué à cela. Donc j'ai demandé à M. le préfet justement d'associer le résultat, c'est en remontant, c'est l'étude financière, c'est-à-dire on ne peut pas demander aux personnes qui sont les contributeurs à cet embasement de ne rien payer pour justement aider le port qui aujourd'hui, grâce à son fonctionnement et aux amodiateurs, arrive à régler ces affaires-là. On passe de 400 à 500 000 euros à 10 fois plus. Donc, ça n'est pas envisageable. Donc, on se rejoint là-dessus, effectivement. Donc, le papy n'a pas traité cela au départ dans ses intentions premières. Il a travaillé sur les risques d'inondation. Il a travaillé sur le côté qualitatif des eaux. Mais nous avons demandé en temps et heure, il y a plus d'un an, nous avons fait une réunion avec M. le maire de Pérol, un représentant de Frontignan également, en mairie de Carnon, à Salé-Messézère, justement, pour alerter les différents contributeurs et demander à ce qu'on associe plus largement, à l'instar de ce qui a été fait pour le papy, tout le bassin versant. Voilà, donc on est d'accord au moins là-dessus, Madame Comandos. Donc je vous demande d'adopter cette affectation de 200 000 euros pour contribuer au financement du dragage. Et contre ? Abstention de M. Capelletti. Et M. Fadéo. D'accord. Très bien. Madame Follier, Caroline.
Délibération numéro 6. Donc, toujours sur le port de Carnon, il s'agit d'admettre des créances en non-valeur. Donc, monsieur le comptable public du Mont-Guillot-Carnon nous propose d'admettre deux créances en non-valeur. Donc, je vous rappelle juste que les créances admises en non-valeur ne veulent pas forcément signifier qu'elles ne seront pas recouvrées. Il précise d'ailleurs qu'il n'y a pas pour 2017 de proposition de créances éteintes. Donc, il s'agit de deux créances, deux dossiers pour un montant total de 6 492,32 €. Donc, il vous est proposé de bien vouloir approuver cette liste et d'autoriser l'admission de ces titres en créance irrécouvrable.
On le regrette bien, c'est ainsi. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Point numéro 7, toujours donc, Caroline.
Il s'agit de l'approbation des tarifs communaux 2018. Donc vous avez eu en annexe une liste pour vous donner, les nouveaux montants. Donc il n'y a pas de grandes modifications, hors l'augmentation de 1,5% prévue dans nos prospectives, c'est-à-dire ce qui correspond à l'inflation. Et alors, une augmentation à noter des tarifs des parkings qui correspond exactement à l'intégration de la TVA, puisqu'ils seront maintenant soumis à la TVA. Et une augmentation à noter pour le théâtre Bassager qui correspond juste exactement au coût réel de fonctionnement, tout simplement. Donc, il vous est demandé de bien vouloir adopter les tarifs communaux pour 2018.
Juste une petite remarque. Oui, parce que sur le tableau, vous nous aviez pas mis les tarifs 2017 comme d'habitude. Ouais. Donc c'était un peu regrettable pour nous, c'était compliqué de savoir les changements qu'il y avait.
Donc à l'avenir, effectivement, il est bon d'avoir le comparatif avec les précédentes.
Ouais, ouais.
D'accord. Monsieur Pradé.
Première question, je voudrais savoir comment s'articulent nos tarifs fête foraine, carnaval, avec le nouveau règlement qui serait plutôt un appel, qui serait plutôt sous la forme d'un marché. Une consultation, comment on. C'est pas la tradition d'afficher les tarifs avant d'avoir consulté d'habitude.
D'accord.
Donc, je voudrais savoir si on va consulter et quel type de réponse, par exemple, à Carnon pourra être faite, vu qu'on a déjà affiché nos tarifs.
Effectivement, l'occupation des domaines publics appelle maintenant des consultations. C'est comment faire, bien entendu. Alors, la politique tarifaire aujourd'hui, sauf pour les amodiations, s'il y a des choses, les amodiations portuaires, des choses particulières. Après, on ne va pas rentrer dans quelque chose de disproportionné par rapport à ce qu'étaient les tarifs aujourd'hui. Si ce n'est que la forme de la consultation va changer.
Non, mais je. Oui. Alors, je vais formuler différemment. Jusqu'à présent, on passait des conventions qui n'étaient pas. Pour votre
avec des mises en concurrence, c'est ça.
Qui n'étaient pas. Les conventions qu'on passait jusqu'à présent avec une association à Carnon n'étaient pas considérées comme satisfaisantes par votre position. Donc j'imagine que là maintenant vous allez faire une consultation un peu carrée. Je voudrais une confirmation de ça et je voudrais savoir exactement quel type de consultation vous allez faire, hein. Quel type légal de consultation.
Ah ben, le type légal, vous l'avez dit. Il n'y en a qu'un.
Non, je
ne
vois pas une consultation
législative. Patrick, ce qui a suivi le mot. Tu veux y aller, s'il te plaît.
On va faire une consultation tout à fait légale, effectivement, en attendant un appel d'offres comme la loi nous demande, tout simplement.
Non, mais...
On a été mis en concurrence avec une transparence complète de l'occupation hybride.
Je rejoins Laura, c'est-à-dire qu'il faudrait supprimer les tarifs, le prix de location des puces.
Oui, mais
il y a marqué puce de Carnot, location 337.
Si, je ne sais pas si, quel type de notation vous allez avoir signé sur la question technique et la question du prix, qui sont des variables dans les marchés. Si vous annoncez déjà les tarifs communaux, c'est compliqué d'avoir une grosse variation sur le volet prix. Vous n'aurez pas le mieux disant si vous affichez vos tarifs. Tout le monde s'affichera sur les tarifs municipaux. Non ?
Si ce n'est que dans l'attente, on est bien obligé de fixer les tarifs aujourd'hui. En attendant que les nouveaux marchés soient lancés, on est obligé quand même d'avoir.
Mais le marché s'arrêtait en décembre. Le marché s'arrêtait en décembre. Hein. Il n'y a plus de marché là pour les puces. Ça s'arrête en décembre. La convention s'arrête en décembre.
On ne peut pas non plus, à cause de la vie de juridique.
Mais il ne devrait pas.
Tout arrêter.
La convention s'arrête en décembre. Hein.
On les relance là.
Là, on a relancé la consultation et il y a la continuité du service public. C'est-à-dire que la loi dispose d'un principe et les collectivités ensuite mettent en œuvre ce principe. Donc, il y a la continuité du service public, c'est-à-dire que toutes les occupations de domaine public sont régies par un tarif. Ce tarif continue en attendant le lancement de la consultation sur la mise à disposition du domaine public. Vous savez qu'il y a différents régimes de mise à disposition. L'important, c'est la consultation. Pour autant, la consultation ne s'effectue pas sur toutes les catégories de mise à disposition. Et donc la commune est en train de relancer, là, sous le contrôle de l'élu délégué, parce que ça concerne principalement des questions de commerce et de mise à disposition d'espaces commerciaux. Il y a eu un certain nombre de réunions qui se sont tenues pour expliquer la règle du jeu d'abord à nos partenaires, parce que la liaison, c'est pas qu'une liaison commerciale, c'est une liaison de partenariat et d'animation. Et donc il y a eu un certain nombre de réunions qui se sont tenues avec l'ensemble des occupants du domaine public pour voilà, afficher les règles, les critères d'attribution, qui sont évidemment liés à la qualité technique et au prix demandé. Et donc tout ça est en train de faire l'objet de mises en concurrence qui vont se développer dans le cadre du premier semestre 2018.
Question peut-être un peu plus précise, quelle forme auront les lots? Est-ce que ce sera des lots par métier? Je pense à la foire de Carnot. Hein. Est-ce que ce sera des lots par métier ou est-ce que ce sera un lot pour l'ensemble de la foire?
C'est pas tranché.
C'est pas encore tranché du tout. Oui. Pour l'État.
Moi, je ne veux pas vous bousculer, mais je serais très heureux si cette question était mise à l'ordre du jour d'un débat du conseil municipal, puisque c'est une question qui a été. Je nie pas le fait que c'est vous qui êtes ministre, monsieur le maire.
Mais
c'est une question qui est dans l'opinion publique et vu que c'est une question de marché. Autant qu'on ait un échange sur les tenants et les aboutissants de manière transparente.
Alors c'est un sujet qui interpelle, nous serons transparents effectivement. Je vous donnerai des éléments si vous voulez en point d'hiver, au prochain conseil municipal si vous voulez, le temps que nous ayons finalisé certaines choses, parce que les réunions datent de cette semaine.
De cette semaine, donc c'est très voilà. Difficile de vous donner des réponses, mais non, c'est
voilà.
Déjà.
Absolument, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous serons transparents, comme nous l'avons toujours été.
J'ai une deuxième question sur cette délibération qui n'a rien à voir avec la première, c'est sur la mise à disposition des salles et plus précisément sur la mise à disposition des salles pour les partis politiques. Je reviens sur l'usage qu'on a eu et des gratuités. Moi, je dois vous dire, je connais la pratique de Montguyot et du Clermont depuis pas mal d'années, je trouve que la pratique s'est dégradée. Vous mettez de la gratuité en période électorale pour Morastel, chose qu'on avait. Ce qui n'était pas le cas avant, hein, au mandat précédent, ça a été délibéré au milieu du mandat précédent. Et vous mettez maintenant. Vous mettez de la gratuité en place pour la salle polyvalente derrière, hors temps de période électorale. J'attire votre attention pour les réunions de travail des partis politiques. J'attire votre attention sur le fait que cette salle n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap. Vous savez que nous avons été amenés à connaître ça et que nous, par exemple, comme nos adhérents sont certaines sont en situation de handicap, nous ne pouvons pas l'utiliser. J'attire votre attention aussi sur la dégradation des conditions d'usage des petites salles. Ça y est, j'ai oublié le nom.
Agora.
Les petites salles Agora. Depuis que vous en avez mis une en vente, on a eu quelques pépins dans la mise à disposition. Et ça se surajoute en plus au fait que on s'était dit avant l'été que la salle de travail ou de permanence pour les élus qui était à la maison Estève serait vite compensée et réglée. Pour l'instant, j'ai eu aucune proposition et j'ai rien vu venir. Donc, dans l'usage de la démocratie, je sais que la tradition constante des maires de Mouguio et des conseils municipaux de Mouguio, c'est de favoriser les mises à disposition pour les partis politiques et aussi pour l'opposition. Je trouve que ça ressemble à une inflexion. Je ne suis pas sûr que ce soit votre volonté.
Non. Ce que vous dites, je veux dire, chaque parti politique pourrait en témoigner de la même manière. Ce qui nous ennuie, c'est peut-être de trouver la solution, mais on essaie de les trouver ici à Mouguio quand vous demandez à Mouguio. Sinon, on donnera une salle à Carnon éventuellement, quand on pourra. Oui. Les demandes des partis politiques ont toujours été satisfaites. Ce que je regrette un peu, c'est que vous le disiez maintenant par rapport à l'accessibilité, ce que je partage comme préoccupation. Quelle que soit la réunion, effectivement, la salle n'est pas accessible. Donc, par nature, la réunion, même quand il y a d'honneur de 100 bénévoles qui en affectent une fois par an, c'est discriminatoire parce qu'il y a des gens qui peuvent pas accéder. Je suis de votre avis. Et d'ailleurs, cette salle, nous n'avons pas l'intention de la garder dans cet état, ni de la garder du tout, puisqu'il a été dit que la reconfiguration de l'îlot Prévert amènerait une substitution d'une salle accessible à tous, et vraiment à tous, pour remplacer celle de la salle polyvalente. Voilà, effectivement. Après, on ne fait pas de prosélytisme, vous le savez. On ne vous a jamais refusé de ça. Jean, peut-être
tu peux vous dire, c'est que ce phénomène n'a jamais été remonté. On n'avait jamais été à la salle par rapport à des problèmes d'handicapés. Ça n'a jamais été remonté. Nous, les salles, il y en a quatre disponibles. On se sera arrangé pour en donner une autre. Il n'y a pas de demande là-dessus. À savoir qu'effectivement, pour les syndicats, aujourd'hui, on n'a pas de salle pour les syndicats, c'est vrai. Ça s'arrangera, ça déconnera les maisons des associations. Aujourd'hui, il y a une tonne de langues on va bricoler comme ça. On n'a pas les moyens d'avoir une salle aujourd'hui que pour vous. Pour les syndicats, c'est sûr. Par contre, le reste des salles sont disponibles, soit à Carnon, soit à Mouguio. Dans la mesure où vous ne voulez plus la salle polyvalente, on vous en aura une autre salle, c'est certain. Mais aujourd'hui, ce problème-là n'a jamais été remonté.
Moi, je veux bien, mais ça fait quelques années quand même qu'on n'utilise plus la salle polyvalente et qu'on a fait savoir pourquoi. Elle n'était pas utilisable.
Nous, les musées.
Non, mais c'est pas. Là, maintenant, on se le dit sans acrimonie. Hein. On se le dit, elle n'est pas utilisable et nous, c'est factuel. On ne peut pas l'utiliser pour cette raison-là. Ça veut dire que, par exemple, si vous nous assouplissiez le fonctionnement municipal et que vous remettiez Morastel à disposition, comme c'était le cas il y a 3-4 ans, il n'y aurait pas de difficulté. Hein. Je veux dire, Morastel, j'ai fait des dizaines de réunions sans qu'il n'y ait aucune difficulté.
Ouais, Morastel, d'accord. Si Morastel, vous faites une réunion, vous êtes 30 ans, mais c'est pas... Alors, je veux dire, Morastel, c'est très occupé aussi. C'est important.
Je ne fais pas dans des années des réunions à 30 de Morastel, vous le chauffez pareil. Non,
c'est pas que c'est un chauffé.
C'est une question de chauffer. Il n'y a pas plus d'usure contre 30 ou contre 350.
C'est disponibilité.
C'est une question de bon sens, on en parlera tout à l'heure avec Prévert, Vélino Prévert, où vous verrez pourquoi on a mis des avenants supplémentaires, parce qu'on ne veut pas ouvrir un théâtre pour 30 places, alors qu'on peut avoir la même chose, qui coûte deux fois moins cher, moins de techniciens et autant de confort dans une configuration plus petite. Simplement, imaginez que quand des chanteurs viennent faire une tournée, s'ils prennent le Zénith, l'Arena ou le Rockstar, ça dépend, si vous voulez, de la jauge. Merci. Ça dépend de la jauge. Enfin, après, sur le principe...
Sur le principe, ça donne quelques pistes. Hein. Il y a quelques années, on avait le restaurant scolaire à disposition. Moi, j'ai fait la réunion du Parti Socialiste dans le restaurant scolaire. On avait mon reste à disposition.
Alors,
on avait une salle de plus à Agora, ce qui fait que c'était plus souple. Là, on s'est retrouvé avec un pépin qui n'était pas... Enfin, il y a eu un pépin récemment lors d'une dernière réunion. Et en plus, on a la maison Estève où on nous dit, bon, mais c'est pour la bonne cause, il faut fermer maintenant. Je trouve que ça fait
Alors, ça fait quelque chose de convergent.
Là où vous avez raison, c'est qu'on a une période difficile à gérer. Et ce que vous décrivez comme quelque chose de plus contraignant, moi je vous réponds que là où il y avait un petit peu de... pas de fantaisie, mais enfin, c'était open bar, pour employer un terme qu'on comprendrait, là on a mis des règles. Et oui, on a mis des règles, parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'associations qui demandent, et les frais supportés par la commune, à un moment donné, doivent être ventilés, on l'a regardé ça aussi, ce qui fait que grosse assemblée, petite salle. Là où vous avez raison, c'est qu'on est en difficulté pour octroyer une salle facilement, n'importe quand vous le souhaitez, accessible à tout le monde. Voilà, on y travaille. D'ici un an, ça sera long. On essaiera d'ici un an de trouver des solutions palliatives. On ne va pas mettre la salle polyvalente en conformité d'ici un an, je vous mentirai. Vous le savez très bien. Voilà. Bon, on prend note de cela.
Mais vous pourriez assouplir l'usage du restaurant scolaire. Je veux dire, on est quand même des gens raisonnables, on sait remettre des chaises en place.
Les chaises, oui, bien sûr. Oui. On essaiera. Hein. On va trouver une.
Mais je dis, c'est parce qu'on s'est dit qu'on trouverait une solution au tournant de l'été et on est au tournant de Noël.
Ouais. On va trouver, à défaut de la trouver à Bourgogne, on la trouvera à Capable. Mais si on peut la trouver à Bourgogne, on la trouvera à Bourgogne. Quitte à ce que ce soit le restaurant scolaire, même si on n'aime pas trop, multiplier les usages d'un bâtiment qui est destiné à l'éducation, ça s'est fait par le passé. Mais bon, c'est vrai que ça nous met un petit peu en porte-à-faux parce qu'on a essayé de mettre des règles, mais qui ne sont pas pour être. À la merde, ce dont vous avez besoin. Bon, je m'engage à le regarder, M. Pradé. Et à trouver la solution. Pas qu'à le regarder, et à trouver. Allez. Je vous propose que nous passions au vote des tarifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Et M. Capetti s'abstient. Allez. Une demande maintenant
de subvention auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, et de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, 2018 pour la reconstruction de l'îlot Prévert. Donc, vous savez que nous réhabilitons l'ancienne école Prévert. Au regard du caractère stratégique de l'emplacement de cette école et de l'importance de son patrimoine architectural pour la commune, il est envisagé la construction d'une maison des associations visant à développer le tissu associatif, mais également l'édification d'une salle polyvalente ainsi qu'un ensemble de bureaux. Donc le coût total de cette réhabilitation était évalué à 2 862 312 € TTC. Et Monsieur le maire vous propose de solliciter la préfecture de l'Hérault dans le cadre de la DETR et dans le cadre de la DSIL pour obtenir la subvention la plus élevée possible, ainsi que d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette action.
Oui, Monsieur Prader. Sur, quand vous dites des bureaux, c'est des bureaux administratifs, c'est des bureaux tertiaires, c'est...
Le service culturel et la SPL.
D'accord.
La SPL demande davantage de bureaux.
Quand vous proposez une demande de subvention pour le TIN 2018, c'est 2019.
Non, c'est 2018.
C'était jusqu'au 30 novembre. Il faudrait qu'on passe pour des gens conséquents en préfecture.
Non,
vous ne voulez pas? Si, j'insiste. Passons pour des gens sérieux. C'est la...
ouais. En fait, ça a été déposé. La demande elle a été déposée en temps et en heure.
On n'a pas fait de conseil entre le moment où vous évoquez cette date et aujourd'hui. Voilà, c'est ce que vous voulez entendre, je vous le dis. Comme ça, je vous fais plaisir. Au moins pour une fois. Et c'est pas cher, voilà. Enfin, écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On demande une subvention, on ne va pas chinoiser pour savoir si on a dans les clous. Nous sommes dans les clous. Voilà.
Donc c'est en fait c'est
une régularisation
après autorisation de la préfecture.
Voilà.
Non, pas après autorisation de la préfecture, c'est après que les services aient bien fait leur travail et bien déposé la demande de subvention en temps et en heure, avant la date butoir. Maintenant, nous attendons la réponse.
Les services peuvent déposer une subvention qui n'auront pas...
Parce qu'il n'y a pas eu de conseil, comme vient de vous le dire Monsieur le maire, pour vous faire plaisir.
C'est un peu comme quand on fait la commission d'appel d'offres et qu'on le passe après un conseil. Il faut quand même valider. Allez, là-dessus, vous êtes
Alors, je mets la question de demande de subvention au vote. La question au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est tous d'accord. Je vous remercie.
Alors, le projet de délibération numéro 9, il s'agit de la demande de subvention pour la requalification de la station de Carnon, schéma directeur, dans le cadre du plan littoral 21. Donc, Carnon, la station balnéaire de Carnon, présente des atouts touristiques majeurs à l'échelle de la métropole et du département, tant par sa situation géographique que par ses activités touristiques et culturelles. Et après plus de 50 ans après la mission Racine, il semble nécessaire à la commune d'engager une réflexion de fond sur la requalification du pôle de Carnon. Donc pour ça, il a été fait des études urbaines au schéma directeur mené en 2017 sur l'ensemble du territoire communal. Plusieurs enjeux, la conciliation du développement touristique avec bien sûr la préservation du patrimoine naturel et la valorisation du cadre de vie, du développement d'un tourisme des quatre saisons en lien avec les milieux humides ou encore à l'adaptation des aménagements urbains et architecturaux au contexte écologique sensible. Le coût total prévisionnel des opérations estimé dans le cadre du schéma directeur pour le secteur de Carnon, en comptant la capitainerie, donc la reconstruction de la capitainerie et une passerelle entre rives est et ouest incluse, se monte à 15,7 millions d'euros hors taxes, soit 19 millions d'euros TTC entre 2017 et 2030. Donc les préconisations du schéma directeur s'inscrivent parfaitement dans les objectifs stratégiques du plan littoral 21. Et l'objectif est de définir une ambition pour le positionnement et l'aménagement du littoral en région Occitanie. Et pour ce, il y a un budget global de 1 milliard d'euros pour la période 2017-2020. Il vous est donc proposé de demander une subvention dans ce cadre-là, la plus élevée possible, auprès du Conseil régional d'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de l'État, dans le cadre du plan littoral 21, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Bien, Mme Combarlos.
On reparle du schéma directeur. Le schéma directeur, ou tout au moins le projet de schéma directeur qui nous a été présenté l'hiver dernier, oubliait un tiers de la station de Carnon. Donc depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles, nous ne connaissons pas ce qui a été validé. Vous parlez d'une passerelle, ça fait très longtemps qu'on parle d'une passerelle et puis ça ne se fait pas. Il y a plein de choses qui ne se font pas. Il y a un bosquet qui est un site classé qui, ça fait 30 ans ou 40 qu'on devrait faire des choses. La loi de 1976 oblige à avoir un plan de gestion pour chaque site classé. Je n'en connais pas de plan de gestion validé. C'est très bien de demander des sous, mais on voudrait savoir et être associé à ce projet. On n'a aucune connaissance de ce projet. Et un schéma directeur d'une ville, ça prend toute la ville, ça ne prend pas les deux tiers de la ville. Il manque une entrée de ville, il manque la zone des campings, il manque des transports en commun entre, je dirais, les trois quartiers de Carnon. C'est ça, un schéma directeur, ça dit comment les choses vivent les unes avec les autres. Donc on demande à être associé, on demande d'avoir les documents.
Alors, madame, bien entendu, vous serez associée. Nous sommes en train de faire procéder à l'étude de tourisme dont nous n'avons pas les conclusions. Là, nous sommes simplement dans une intention. On a recensé un ensemble d'éléments, dont vous en avez cité quelques-uns, qui sont des éléments éligibles à une aide de la part de la région pour reconfigurer la station dont l'ancienneté des travaux date de la mission Racine, ce qui ne veut pas dire que tout n'allait pas bien. Mais aujourd'hui, nous avons une occasion, à l'instar de la Grande Motte, de Gruissant, de certains sites remarquables, de pouvoir bénéficier d'une aide pour retravailler la reconfiguration de l'espace public. Il y aura un gros travail qui intéressera M. Pradel, c'est sur l'habitat également, mais qui prendra très certainement un peu plus de temps. Donc il y a également des usages, comme celui que vous avez cité de la passerelle, qui sera un ouvrage qui sera peut-être réalisé s'il est subventionné, qui ne le sera peut-être pas, vous le savez, nous l'avions mis dans nos intentions, dans notre PPI, et nous avons privilégié d'autres réalisations dans nos choix, ce qui ne veut pas dire que nous ayons délaissé cette affaire-là. Pour ce qui est des transports, les transports ne sont pas, s'ils sont de la compétence de la région pour l'air et pour l'eau, et même pour le fer, il n'empêche que la région, le plan de déplacement est travaillé au niveau de l'AVLO. Les subventions dont il est question là ne concernent pas le volet que vous évoquez. C'est un autre volet. Là, nous sommes dans des équipements de base et aussi dans quelle ville nous voulons demain pour Carnon. Nous travaillons, je le rappelle, sur les modes doux de déplacement. Nous travaillons sur la conciliation d'un tourisme qu'on appelle éthique entre les attentes des Carnonais à l'année et l'admission des touristes, des estivants, dans des conditions de consommation et d'animation de l'espace différentes d'une concentration telle qu'elle était conçue dans les années 70, à savoir, on veut quelque chose d'un tourisme un peu plus vert, on veut s'orienter vers la valorisation du canal, on veut s'orienter vers un tourisme plus diversifié, plus respectueux de l'environnement, plus tourné vers l'étang, dont vous parliez tout à l'heure, qui vous est cher, il m'est cher à moi aussi. Donc on essaye de travailler, si vous voulez, sur un modèle qui ressemble à la commune, c'est-à-dire un modèle qui s'inscrit dans le développement durable et qui concilie surtout la qualité de vie au quotidien. Voilà. Il faut arrêter de voir Carnon comme un lieu qu'on investit pendant 2 mois et dont on fait tous les engagements financiers humains au profit simplement de l'accueil touristique. Nous travaillons à accueillir correctement les touristes. Nous allons avoir des offres bientôt plus importantes au niveau de la zone aéroportuaire. Vous le savez, l'espace à Carnon est très, très restreint. On n'a pas beaucoup d'espace pour jouer sur la redensification urbaine, sur l'extension, n'en parlons pas, mais il n'est pas question d'oublier qui que ce soit. Et vous verrez que Carnon Ouest, il s'y passe beaucoup de choses. Je dirais même que ceux qui sont les plus en attente seraient ceux qui s'étirent sur la ligne, sur Gracian-Cibran. Pour conclure, Madame Combarnos, il va sans dire qu'avant d'aller devant la population, avant d'aller devant les Carnonais en 2017, nous partagerons ensemble les orientations de ce schéma directeur, nous les discuterons, nous nous confronterons, c'est-à-dire nous échangerons nos vues, et puis nous déciderons. Voilà. Mais là, il est question de demander des subventions pour quelque chose qui est au niveau d'une intention, d'une volonté. On sait qu'on ne pourra pas tout faire. On sait aussi que ça s'étalera dans le temps. Là, il est question d'une vision. C'est une chance que la région nous offre. Je me tourne vers les collaborateurs de la région, il y en a eu dans la salle. La région nous offre cette nous avons notre conseil régional. La région nous offre cette immense opportunité, justement, de travailler avec les collectivités. Bon, à l'heure où on regrette parfois les engagements de l'État, moi je souligne cette volonté de la présidente de région et des élus régionaux pour justement nous amener vers un mieux-être au niveau de notre ville de Carnon, qui est plus éligible à l'aide que ne l'est celle de Moguio. Réjouissez-vous, Madame Combarnos. Je pense que, pour une fois, pourrions-nous dire, ce sont ceux qui sont moins importants dans la configuration, mais dans un milieu plus fragile et plus, j'allais dire, de nature à être amendé, amélioré, retoileté. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de Carnon une priorité en termes de réaménagement urbain. Et je n'oublie pas, bien sûr, le travail que nos services et M. Cassard font sur le PLU, sur la révision du PLU à Moguio. Donc là, on rediscutera de tout cela, bien sûr. On est dans une intention. Comment pouvez-vous ne pas demander une aide à la région, hein? Vous êtes d'accord?
Non, je suis d'accord. La question, c'est... Bon, mais travailler ensemble, il faut pouvoir voir quelles sont peut-être les priorités, qu'est-ce qui va donner du fluide à la vie de Carnon, voilà. Et bien sûr, je pense à Carnon.
Nous avons missionné les cabinets dont nous aurons le retour, Madame Combarnos, que nous partagerons avec vous à la rentrée, en début d'année 2018. Bien sûr, avant d'aller dans les Carnonais, vous y serez associé, je m'y engage. Voilà. On a eu aussi. Si, tu appuies, ça marche.
Il y a déjà eu des premières étapes de fête, vous avez déjà été consulté sur le. En prémisse au schéma directeur, il y a eu des enquêtes.
Il y a eu une réunion.
Il y a eu des enquêtes qui ont été faites
Vous avez été, Laurent Trabeil, M. Bourguet, ont été interrogés sur... avec M. Saint-Pierre.
Avec Micaïa.
Les enquêtes préalables qui ont permis du coup de définir qu'il fallait l'outil schéma directeur et de se lancer. Donc tout ça déjà fait partie aussi de ce bloc-là. C'est pas tout, tout n'est pas séparé, tout est dans cette logique.
Cependant, moi sur... je connaissais la possibilité d'une île, maintenant je vois la possibilité d'une passerelle. Franchement, j'étais très très en soutien à l'idée d'une passerelle. Oui. On a eu des échanges où on m'a beaucoup refroidi, on a dit que c'était pas jouable pour des raisons techniques et tout, et là je veux la voir réapparaître. Alors je sais pas si je dois m'en réjouir ou m'en désoler, mais en plus je la vois chiffrée. Donc ça veut dire qu'on a déjà une idée un peu plus précise et j'ai rien vu passer. Donc soit j'ai loupé un morceau du film.
On n'a rien loupé du tout. On a imaginé, je l'ai dit tout à l'heure, on a imaginé d'intégrer la passerelle dans notre plan prévisionnel d'investissement, notre PPI. Quand on a fait nos comptes, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres priorités et que les premières esquisses du schéma directeur tendaient à dire que tout autant qu'on n'aménageait pas Canon Ouest avec une reconfiguration à travailler, l'idée de la passerelle n'était pas forcément l'urgence absolue. Et qu'il valait mieux d'avoir travaillé sur la reconfiguration de la capitainerie, sur la reconfiguration de la promenade du côté de la place Cassan et du côté de la promenade derrière. L'avant-port. Merci. Et de l'avant-port. Et qu'on a sursis, on a dit bon, on va la lever. On va la lever, on lève la passerelle. Voilà. Et là, on se dit, après avoir. On a eu des échanges avec certains collaborateurs de la région. Et ils nous ont dit, écoutez, à vous de voir, mais il n'est pas interdit de mettre vos intentions, puis nous verrons, nous, ce que nous estimons être des équipements structurants, utiles ou pas utiles. Après, il y aura une discussion. Et par magie, on n'a pas trouvé de l'argent. Ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être de nature à être subventionné. C'est tout ce que nous disons. Et qu'il faut jamais jurer l'avenir. Si demain c'est possible, de toute façon... Arrangez-vous comme vous voudrez, arrangez-nous comme nous voudrons. On est quand même un petit peu pénalisé parce qu'on ne passe pas aussi facilement que ça d'une rive à l'autre à ce niveau. Voilà, c'est une évidence. Et là, si c'était facile, je pense que Mme Combarnos, vous l'auriez voté en 83 ou entre 83 et 89, vous l'auriez voté. Ça se serait déjà fait si ça avait été facile. Et on n'a pas pu, je vois un sourire.
Il y a peut-être une urgence, c'est le pluvial de Carnon Ouest, parce que ça fait des flaques de 500 mètres de long et 300 mètres de large. C'est la vie à Carnon. Hein.
Oui. Allez, je vous propose.
D'accord.
Je vous propose, au moins vous avez un point de convergence. Uh-huh. Je vous propose de voter cette demande de subvention, si vous êtes d'accord. On reviendra bien sûr sur le schéma directeur. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Vous n'êtes pas dessous, M. Pradeil? Regrette.
Non, mais c'est ça. C'est, on a eu une fois la conversation avec votre adjointe,
oui.
Qui disait, est-ce que vous reprochez à nos services de mal monter les dossiers? Non, certainement pas. Mais là, moi, je trouve que, politiquement, on affiche mal nos priorités. Et on peut même avoir... on peut avoir des partenaires qui vont dire qu'on a des priorités flottantes, ce qui est dommage, je prends une passerelle.
Le dossier de remise est définitif, M. Pradet, il n'a pas été encore déposé. Nous sommes en train de bien
finir.
Voilà, on est une demande de subvention. On n'est pas sur une... Et puis, quand la feuille de route est claire, la réponse est claire. Quand la feuille de route petit à petit se dessine, notre réponse se dessine petit à petit. Je ne vous cache pas que les premières réunions, vous avez écouté, bon, on attend de voir, ça oui, ça non, on approche à petits pas, je ne critique personne, on avance. Alors après, est-ce qu'on avancera sur la passerelle, je ne sais pas. Honnêtement, ça, je vous donne. Allez, on attaque le point suivant. C'est une indemnité allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions des receveurs des communes.
C'est ça, c'est-à-dire que les comptables publics peuvent aussi fournir des prestations de conseil. D'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, et notamment dans le domaine pour l'établissement des documents. Donc cette aide, ce soutien donne lieu au versement par la commune ou l'établissement public intéressé d'une indemnité dite indemnité de conseil. Donc nomination du nouveau trésorier, M. Souverville, il convient de délibérer l'attribution de cette indemnité à partir de la date de prise de ses fonctions, c'est-à-dire à partir du 13 mars, puisque M. Cardi, lui, doit percevoir 609,60 jusqu'au 12 mars 2017, et bien sûr, à partir du 13 mars, pour M. Souverville, revient 2675,38 €. Donc, on vous propose de bien vouloir allouer un taux d'indemnité de 100% à M. Souverville à répartir conformément au décompte transmis, c'est-à-dire au prorata temporis santé.
Libération classique, c'est des personnes qui nous sont très précieuses et dont les conseils sont particulièrement suivis et appréciés. On passe au vote. Contre, abstention. Il y a M. Souverville qui a fait l'unanimité, il sera content. Le point numéro 11.
Il s'agit d'une remise gracieuse de la taxe sur la publicité extérieure pour l'entreprise DMA de la Longue Automobile. Donc, Monsieur le maire propose d'effectuer une remise gracieuse aux entreprises de la commune qui ont des difficultés et qui sont redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure. Le but étant de sauvegarder les emplois et de pas accentuer les difficultés de ces entreprises. Donc c'est le cas de DMA de la Longue Automobile et ça représente 620,05 €. Donc il vous est demandé de bien vouloir accepter cette remise gracieuse.
Voilà, donc cette démarche est consentie auprès des entreprises qui sont sous surveillance avec un plan de sauvegarde. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. La même délibération vous est proposée pour l'entreprise Le Garage Rivoto.
Pour un montant de 3 863,04 €.
Contre, abstention. Merci. Et elle arrive au 13e point.
Donc, il s'agit du renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec la Fédération régionale des MJC pour l'année 2018. Donc, la commune verse chaque année une subvention pour le financement du poste de directrice et du poste de coordinatrice de la MJC de Nouveau-Clermont. Le montant de cette subvention 2018 s'élève à 103 839 €. Subvention FONGEP déduite. FONGEP, c'est le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc, Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver cette subvention.
Je n'ai pas signé en
conseil. Bien. D'accord, pour la MJC, qui est contre, qui s'abstient. Merci à vous tous. Point numéro 14. Alors, autorisation du maire signé pour les avenants 1 et 2. Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'îlot Prévert. Alors, îlot Prévert, on y arrive petit à petit, on y arrivera en fait. Voilà, on a.
Pardon 14.
Vous m'envoyez aux toilettes ? Voilà. Allez, j'y vais. Rapatriement sanitaire, point numéro. Voilà, donc, il s'agit du renouvellement d'un marché. Alors, on a eu un marché avec l'entreprise SM Clean là, qui a été liquidée. On a pris une personne pour relancer. Et pour l'année prochaine, donc, il y a une commission d'attribution qui s'est. Une commission d'appel d'offres qui s'est tenue récemment. Et c'est la société de Richemont Propreté, avec une tranche ferme pour nettoyage des infections récurrentes des sanitaires publics pour 63 761,20 €. Avec une tranche optionnelle, nettoyage des infections des sanitaires publics en période de vacances scolaires d'été à Carnon et lors de la fête de Moguio pour un montant de 20 720,89 €, ce qui amène le montant du marché, toute tranche confondue, à la somme de 84 482,09 €. Voilà, et que les prestations ponctuelles peuvent être commandées suite à des manifestations intempéries dans la limite du montant contractuel de 12 000 € par an. Voilà. ces dépenses sont bien sûr inscrites. Voilà, bon, sur la propreté, là, nous avons donc rallongé un peu le marché pour arriver à de meilleurs résultats. Toujours pour essayer d'avoir une qualité dans les moments festifs, où véritablement, malgré les efforts que nous déployons, on n'a pas toujours le succès. Quand je dis le succès, l'usage des toilettes ne se fait pas avec la facilité et la décence, je dirais, le côté sanitaire que nous attendons. De temps en temps, il y en a qui manquent les aiguilles. Voilà, ce qui fait, c'est autant de travail pour nos collaborateurs le lendemain, et c'est surtout manque de respect. Voilà. Donc, ce qu'on essaie, c'est de mettre toutes les conditions de notre côté. Voilà. Toutes les chances de notre côté. Madame Combarnon. Oui.
Je souhaiterais vous informer du document que j'ai ici. Il vient de la municipalité de Palavas.
Oui.
Et Palavas dispose de 18 toilettes publiques opérationnelles toute la nuit. Et ça, c'est important. C'est important. Parce que, par exemple, à Carnon-Ouest, excusez-moi, mais il n'y a aucune toilette pendant l'hiver. Et aller aux toilettes est un besoin naturel. Et là, c'est pas... Et là, c'est pas par manque de civisme, mais il y a des gens qui se retrouvent à avoir de vrais problèmes. Moi, deux fois par an, en moyenne... J'ai des étrons qui viennent se balader chez moi. La dernière fois, c'est après le 1er novembre. Il n'y a pas un seul commerce d'ouvert. Les gens viennent de Montpellier, ils ont marché après le tram. Et d'un seul coup, il y a des choses qui se passent. Véritablement, il y a besoin d'un édicule ouvert toute l'année à cet endroit-là. Et je vous suggérerais, au cas où, puisque Palavas a un contrat pour ces toilettes ouvertes 24 heures sur 24 et tout le long de l'année, de demander qu'il y ait un édicule qui soit placé là pour pouvoir réceptionner tous ces gens qui viennent par le tram et qui viennent, qui n'ont pas prévu un besoin naturel.
Madame Comarno, vous venez, à votre manière à vous, de nous remercier d'avoir pensé à faire des toilettes accessibles au public à côté de la base nautique, c'est-à-dire à 100 mètres de chez vous. Vous voyez, on a pensé à cela, on a pris en compte les demandes des riverains, on a pris en compte le fait que vous n'appréciez pas, et moi-même si j'étais riverain je n'apprécierais pas qu'il y ait des gens qui aient posé culotte devant chez moi. Donc nous y avons remédié. Mais la manière dont vous le racontez pourrait donner des idées à votre voisin, M. Bourguet, qui pourrait mettre en scène de manière un petit peu amusante. Effectivement, on y pense en accompagnance. Et puisqu'on ne fait plus qu'y penser, on le réalise, sans que vous l'ayez vous-même formulé comme ça, mais on en est conscient.
Ça ne sera pas ouvert 24 heures sur 24, et d'autre part, peut-être que ça ne sera pas construit.
Vous n'allez pas y aller quand même. Attendez, on va quand même... On met quelque chose en place et vous dites... Alors, quand il n'y a rien, vous voulez quelque chose, et quand on met quelque chose, vous dites que ça sera fermé. Pousser un peu le bouchon. Et le bouchon, ce qu'on en a besoin. Écoutez, on travaille dans ce sens, et vous le savez, la propreté, on y travaille, et c'est la commune donne le là, et les canonnés, les visiteurs jouent la partition. On a encore des progrès à faire, c'est vrai. Et des fois, les premiers cochons, ils viennent pas de Montpellier, parfois. Hein, c'est vrai.
Je ne sais pas d'où ils viennent.
Je ne sais pas.
Je ne leur demande pas leur papier.
Mais on chasse, la chasse au cochon sauvage est ouverte. Voilà.
Non, mais...
Allez. Non, mais on y... Et la preuve, c'est qu'on en met devant chez vous. Allez. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
La caisse de chez Laurent, ils vous la prêtent.
C'est les vêtements.
Mais il faudrait qu'ils soient ouverts, Lolo.
Ils vous la prêtent.
Pour la fin,
alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Point numéro suivant, c'est les vêtements de travail pour le personnel d'accueil. Alors effectivement, c'est un marché qu'on relance tous les ans. Le marché, l'entreprise Espace MJ Sécurité, qui est de Saint-Aunès, a été retenu pour un montant de 9 417,52 €. Et je vous propose donc, alors c'est un prix unitaire au BPU. Voilà, dans la limite du budget alloué, je vous propose donc de désigner cette entreprise comme attributaire du lot, où nous pourrons nous servir pour les vêtements de représentation d'accueil puisque le lot de Sylvie Tamar arrive à échéance en 2017. Voilà. Contre, abstention, je vous remercie. On revient maintenant à un sujet plus important, même si le reste ne l'était pas négligeable, c'est les avenants 1 et 2 du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'îlot Prévert. Alors, là, c'est la rémunération définitive. C'est le. Nous avons eu un cours de route entre l'estimation prévisionnelle et la réalité du marché que je vous demande de passer, de m'autoriser à passer. On a eu des suggestions techniques imprévues, c'est-à-dire un cas d'euro. Un cas d'euro qui fait que le budget primitif a été, le budget prévisionnel a été augmenté de 5% à cause de cela. Et la collectivité a par ailleurs formulé des exigences supplémentaires, c'est-à-dire pouvoir doter la salle de réunion, la salle polyvalente qui viendra en substitution de celle qui aujourd'hui n'est pas accessible, d'une capacité d'être une salle de théâtre, de représentation théâtrale. De sorte que, par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure, au lieu de mobiliser deux ou trois techniciens, chauffer une grande salle avec une jauge de 318 places qui est massagée, on pourra, quand la configuration appellera une chambrée, une jauge moins importante, prêter, louer, mettre à disposition, dans des conditions qui seront définies par le Conseil, bien sûr, la salle Prévert. Donc, pour le coup, on a mis des projecteurs, on a mis une rampe, on a mis un rideau, on a mis d'autres choses. On a pensé que c'était plus intelligent, n'est pas le terme, plus sensé. Et Mme Rabinovici, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui représentait le groupe, votre groupe, M. Bourguet, en a été d'accord. Voilà. Bon, je ne suis pas autorisé à parler à sa place, je cite simplement le fait qu'elle ait acquiescé. Donc, ces augmentations font que nous sommes passés d'un budget de 3 211 114 à 3 586 000 euros. Donc, on a eu une nécessité de remettre à jour la rémunération de l'architecte qui est passé, qui a pris 10%. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est au regard des tranches qui ont été impactées, vous avez trois tranches optionnelles. On avait une tranche ferme, puis la conditionnelle 1, la 2, la 3 avec l'OPC. Donc, ce que je vous demande, c'est de m'autoriser à signer l'avenant qui fixe la rémunération définitive du marché avec l'entreprise attributaire et qui arrête le montant du coût des travaux et également la rémunération de l'architecte. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe de 321 114 à 358 600 pour l'architecte, c'est ça ? 37 000 euros en gros salaire. Voilà. Et là, c'est définitif. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, la moitié, on y était pour rien, la moitié, c'était un choix. Quand on y a été, quand on a travaillé avec Mme Wintraport et les services, on dit c'est un peu bête quand même de ne pas faire l'effort nécessaire pour avoir une deuxième salle. Donc, on en aura une petite et une grande. Voilà. Début des travaux, mois de mars, et fin des travaux, fin du premier trimestre ou printemps 2019. On passe au vote. Contre. Abstention. Abstention. Je vous remercie. On passe maintenant au point numéro. Je ne sais pas, j'ai perdu le compte. 15, 16, 17. Protocole transactionnel de la société Adval Production. Alors, je vous la fais simple. Nous avons un prestataire qui est venu pour la fête votive. Cet orchestre, c'est l'orchestre, grand orchestre Très d'Union, Eric Perrier. Et il se trouve qu'il y a eu une erreur dans la transaction entre la prestation et le paiement. La commune a payé ce que la société a demandé. Et puis la société, quelques temps plus tard, un jour, nous dit, mais on s'est trompé. C'était pas ce prix, c'était un autre. Donc la société a demandé deux fois 3660 euros. Et on est tombé d'accord, comme on fait quand c'est une transaction. On a coupé la part en deux, on a fait ce qu'on appelle le jugement d'assemblement. Donc, on s'est mis d'accord, enfin, les services sont mis d'accord. Je n'ai pas personnellement rencontré le trompettiste ni le chef d'orchestre. Voilà, donc on s'est mis d'accord par rapport à l'erreur qui avait été commise
pas la comptabilité de l'orchestre. Je précise que nos services n'étaient pas du tout en faute sur cette affaire-là. Voilà. Donc, M. Perry attend que vous m'autorisiez à lui verser 3 660 euros, si vous êtes d'accord. Contre, abstention, je vous remercie. Monsieur Cassard, Bernard va nous parler du PLU avec les objectifs, les modalités de la concertation et l'approbation. C'est un des gros morceaux qui nous attend, pas que ce soir, dans les années à venir. Bernard, c'est à toi.
Monsieur le maire rappelle que le PLU a été approuvé en juillet 2006 et qu'il a fait l'objet de 6 modifications et d'une révision allégée. La révision du SCOT qui est menée par la POA le portait à connaissance du PPRI révisé. Le schéma directeur en cours, la loi Allure, enfin toute cette réglementation qui évolue rendent notre révision du PLU pratiquement obligatoire afin de le mettre en conformité avec ces différents documents et de permettre la réalisation de notre projet urbain communal. La révision du PLU doit permettre de consolider l'identité de la commune. Elle intégrera les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur de son patrimoine environnemental et agricole, l'évolution démographique en cours actuel, le développement économique et l'adaptation du territoire aux risques climatiques. Cette révision aura pour objectif de développer un parc de logements équilibré pour répondre aux besoins de tous et favoriser la diversité sociale et intergénérationnelle, de renforcer la place de Moggio comme pôle d'emploi, de développer de façon harmonieuse le tourisme et les services de proximité, de préserver et valoriser les paysages, les espaces littoraux naturels et agricoles, et de mieux maîtriser les déplacements, en privilégiant les transports collectifs et en optimisant le réseau viaire et en accordant une place majeure aux déplacements doux. Et enfin, il accompagnera le développement de la ville par la création ou la requalification de nouveaux équipements et espaces publics. Cette révision, conformément au code de l'urbanisme, elle sera menée, et à la volonté de la municipalité bien sûr, elle sera menée en concertation avec le public. Cette concertation sera effective pendant toute la durée de la révision du PLU, à laquelle seront associés les habitants, les associations, les acteurs économiques et toutes les personnes éventuellement concernées. Les modalités de cette concertation, Internet, réunion publique, registre, etc., vous sont décrites dans la délibération qui vous est proposée. Il vous est donc demandé de prescrire la révision du PLU, d'en approuver les objectifs et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte et document relatif à cette révision. Excusez-moi, mais je ne suis pas très bien.
Merci Bernard. Oui, Monsieur Cassard n'est pas bien. Merci d'être volontaire pour présenter les points et on le remerciera quand il aura terminé, si peu. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des... Sur les objectifs, je pense qu'on est... Sur les objectifs, Madame Gombanos, que vous allez approuver, j'espère.
J'approuverai si vous me garantissez que les risques naturels seront pris en compte.
Comment pouvez-vous imaginer l'inverse, Madame?
Merci.
Je ne vais pas quand même le faire à pile ou face. La réponse est oui.
Est-ce qu'il y a un rétro-planning qui a été décidé, des dates qui sont proposées?
Alors, le PLU, la révision du PLU, c'est une affaire qui est... Je ne dirais pas que ça ne marche pas vite, mais en fait, il faut du temps.
Il faut du temps, oui. Ça sera pas... on ne pense pas que la révision soit terminée avant la fin du mandat. Elle sera très, très avancée, jusqu'en fin 2019, elle sera très avancée. Il n'y aura plus que des formalités, mais on ne pourra pas tout réaliser, je pense, avant la fin du mandat.
Oui, on ne mettra pas des enquêtes importantes au mois d'août.
On va essayer.
La révision du PLU, monsieur Bourguet,
c'est une chose assez sérieuse.
C'est quelque chose. Tout est sérieux quand on fait des enquêtes publiques, mais là, on s'y prépare depuis des années, puis c'est une volonté de la commune également. On a dit, on a parlé, on a souvent l'occasion d'échanger sur l'habitat, avec des idées. Parfois on se retrouve, parfois on n'est pas d'accord. Mais effectivement, on ne peut pas continuer à imaginer un développement de la ville tel qu'il a été fait jusqu'à maintenant, si on veut intégrer véritablement le Melbourien, celui qui est et celui qui va venir, dans un espace public de qualité, dans un cadre de vie sécurisé avec les modes de déplacement, et on le verra tout à l'heure quand on parlera de la fonte de Mogio, avec des compensations environnementales, on en a besoin. Et là-dessus, alors chacun a sa chapelle peut-être, sa manière de le dire, mais là-dessus, soyez certains qu'on ne veut pas une ville bétonnée, on ne veut pas une ville comme le sont malheureusement les villes qui sont dans les périphéries des métropoles, où par facilité parfois, des fois par exigence, eh bien on a sacrifié de vos espaces naturels. Et j'attire votre attention sur le fait que depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas mis un seul mètre carré supplémentaire au PLU qui avait été initialement voté par nos prédécesseurs. Donc je veux dire qu'il y a vraiment cette conscience de protéger notre environnement et de ne pas s'étendre à tout va. On est d'accord là-dessus. Et donc les intentions sont bien décrites dans le document, comme l'a présenté M. Cassard, et bien entendu avec les risques où là on est de plus en plus garanti, j'allais dire, puisqu'on prend en compte non pas des épisodes décennaux, où on prend en compte des tranches de temps beaucoup plus larges. Voilà. Alors donc, le maître d'œuvre sera la prochaine, désigné maître d'œuvre dans le courant de l'année 2017. Et bien entendu, là, pour le coup, les citoyens, il ne faudra pas qu'ils viennent pour dire quand ça ne va pas. Il faudra qu'ils participent, justement, et nous dire, et les anciens et les nouveaux, ce qu'ils souhaitent. Enfin, nous en avons quand même bien conscience. Ne serait-ce qu'en regardant certaines erreurs, et bien aujourd'hui, ce que nous vous proposons et qui a été discuté, et qui a été amendé dans un sens, à mon avis, qui ne peut que vous satisfaire, bien, prouve bien que nous avons les uns et les autres cette conscience de protéger les citoyens, les générations à venir, et qu'on veut un développement durable. Mais pas qu'au niveau des mots. On le veut vraiment, et on le fera. On le fera. Voilà. On le discutera, on se chamaillera, mais on le fera. Oui. Monsieur Pradeil.
Oui, monsieur le maire, vous nous proposez des objectifs sans. Vous avez rédigé des objectifs sans avoir réuni la commission urbanisme.
Oui. Il n'y a pas une. C'est vrai, vous avez raison. Ce ne sont que des propositions. Nous avons préféré réunir la commission d'urbanisme après l'annonce de l'autorisation. De la révision du PLU, pardon. De la révision du PLU au conseil municipal, et nous réunirons la commission d'urbanisme au mois de janvier.
On est dans quelque chose.
Vous avez raison.
Oui. On est dans quelque chose de très généraliste, monsieur Prailleux. Bien entendu que là, c'est comme quand vous allez voir le médecin, on n'a pas encore retraité.
Et que il vous prescrit un suppositoire.
On n'a pas. Non. Ah. Chose qui vous amuse. Vous allez être à la délibération, à l'antépénalité en délibération. On a trouvé le remède. Voilà. Effectivement, nous sommes dans des intentions contre lesquelles, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, il est difficile d'aller. On essaie d'aller vers quelque chose qui concilie. Alors ensuite, quelle forme cela prendra? Quelles seront les priorités? C'est ça que nous allons discuter. Là, il n'y a pas d'autre.
Moi, si vous voulez, dans la manière dont vous avez rédigé, je pourrais décrire tout ce qui n'y est pas. Il n'y a pas de référence au PLH, bon, je l'aurais pas rédigé comme ça, ce texte d'orientation. Et on l'a pas travaillé ensemble, donc c'est pas un texte de convergence. C'est un texte qui est conforme à votre tradition, qui est conforme au PLU que vous avez déjà rédigé dans les mandats précédents, et qui n'est pas un PLU qui a donné satisfaction. On le révise et on voit qu'il avait ses propres limites. On aurait pu dire le territoire de Mogio, qui a les moyens de nourrir ses enfants et de loger ses enfants, va continuer à amplifier ses capacités. Enfin, on l'a pas comme ça. Non, c'est pas rédigé comme ça. Il n'y a pas non plus.
On a donné un poids de développement des logements pour la.
Oui, non, mais si vous voulez, on n'a pas. C'est dans le détail que se loge le diable, et on n'est pas. Et là-dessus, au vu de vos politiques successives mises en place, moi je suis très méfiant, je suis très réservé. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas un jour peut-être à converger, mais pour l'instant, on n'y est pas. Je prends l'exemple du PLH, qui est normalement, on devrait dire, on tient compte du PLH, qui est quand même la novation sur ce mandat-là. On n'en fait pas une référence. Et les objectifs du PLH, on ne les écrit pas comme des des références. On n'écrit pas non plus que la maîtrise du foncier fait partie de nos priorités. Donc c'est pour ça que moi, on devrait l'écrire. C'est pour ça que moi, je suis, pour l'instant... C'est un document qui n'a pas été... C'est un document qui ne fait pas l'objet du consensus du conseil municipal. C'est pour ça qu'il faut savoir d'où on parle. Moi, par rapport à ça, et éclairé par vos politiques, c'est un document que je ne soutiens pas.
C'est un document qui servira de base de travail, justement, après, à la commission, aux concertations, etc.
Vous dites différemment ce que j'ai dit tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas continuer comme ça, que nous sommes très vigilants sur la consommation de l'espace. J'ai dit qu'on n'avait pas voté un mètre carré supplémentaire depuis plus de 10 ans, ce qui prouve bien notre attention là-dessus. Et le PLH, vous voulez que je vous dise qu'on va construire à Tauberzeg pour arriver à faire plaisir à tout le monde et mettre du béton partout? Vous le savez comme moi, nous avons des objectifs de PLH. Évidemment que nous allons en tenir compte, puisque le SCOT est intégrateur, vous ne l'ignorez pas, et que nous allons, bien entendu, tendre vers une politique d'inclusion, ce qui sera pour nous satisfaire, parce que là-dessus, nous avons des convergences. Monsieur Pradaille, c'est comme si vous nous disiez, c'est comme si au cours de DOB, vous nous disiez, nous, le DOB, c'est une forme de prédiscussion, ça c'est un principe, on met en place des principes, la commission se réunira en janvier, et ensuite, on discutera vraiment des priorités, bien entendu.
Vous le dites différemment. J'entends bien, mais si vous voulez, c'est pas un texte qui sort comme ça de l'étang de l'or. C'est le texte d'une majorité qui a une politique. La politique de cette majorité, c'est de mettre beaucoup d'argent public pour créer par exemple le fonds de Mobio et de dire non, on n'est pas capable dans la phase 1 de tenir les 30% du PLH. Donc c'est pas un texte ex nihilo. C'est pour ça que comme ce texte là ne marque pas ce qu'on vous demande depuis quand même 3 ans, comme il ne le dit pas, on peut considérer qu'il dit l'inverse.
Voilà, écoutez, ça c'est un outil pour mettre en place...
Il est quand même précisé dans le texte que nous consacrons 30% de logements sociaux. Vous ne pouvez pas nous accuser de ne pas respecter les 30% de logements sociaux. Je sais, vous allez leur sortir l'article, je ne sais quoi.
Non, mais je vous accuse pas, je constate... je constate que sur la fonte de Montguillot, vous êtes à 20, à 19 et quelques. Vous n'êtes pas à 30.
Sur la première tranche.
Mais enfin,
que
les électeurs de votre vie, il y aura d'autres élections.
Sur l'ensemble de la fonte de Montguillot, il y aura 30% de logements sociaux.
Alors, oui, désolé. Si les électeurs ont prêté vie.
Alors, Monsieur Pradaille, ne soyez pas mauvais. L'outil qui est le PLU servira le schéma directeur. J'ai dit à Mogio, nous travaillerons surtout sur le schéma directeur avec l'outil qui est la révision du PLU. Ici, nous avons des marges de manœuvre pour le desservement urbain. Nous avons des marges de manœuvre pour voir un petit peu comment on construit un petit peu plus qu'à Carnot. Et on le discutera, le schéma directeur. Et je ne peux pas vous laisser dire, parce que vous êtes malin, qu'on dépense de l'argent. Vous êtes aimé comme ça. Qu'on dépense de l'argent public pour des opérations comme la fonte de Montguillot. On va y venir tout à l'heure. On ne dépense pas l'argent public. C'est une opération qui se suffit à elle-même. C'est comme un budget annexe. Et on aura l'occasion d'y revenir. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Mais nous y reviendrons.
Pourtant, je viens de le faire. Et au budget, on le discutera.
Mais bien entendu qu'on le discutera. On le discutera dans 5 minutes. Tiens, vous allez voir.
Non, mais au budget général.
Ah,
primitif.
Le budget général.
D'accord, on discutera dans le détail.
D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je fais voter ces intentions de prescription de révision du plan local d'urbanisme et je vous demande d'approuver les objectifs tels qu'ils ont été précisés par M. Cassin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il en prévère, pardon.
Alors, la réglementation... prévoit que le conseil municipal doit autoriser le maire à déposer les permis de construire ou de démolir concernant les édifices publics. Donc c'est ce que l'on vous demande aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien autoriser le maire à déposer le permis de démolir et le permis de construire organisant la réhabilitation de l'îlot Prévert et à signer tous les documents afférents à cette procédure?
Mais oui, les maires sont mandatés par le conseil.
Vous
Oui, bon, tout à l'heure, on s'est abstenu pour toujours pour les lots Prévert. Là, on va s'abstenir pour la simple raison que, en tant que, par exemple, moi, en tant que militant associatif sur cette commune très investie, je pense qu'on n'a pas été assez associé à cette construction d'une maison des associations, même si le principe est bien, que je suis favorable. Je trouve qu'on n'a pas été associé, en tant qu'associatif, on n'a pas été associé voilà, à cette future maison des associations. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Par exemple, le fait qu'il n'y ait plus de galeries d'art à Mouguio, je trouve que c'est regrettable. Et puis plein d'autres sujets, la configuration intérieure, tout ça. Voilà, je trouve que, voilà, en tant qu'associatif, on n'a pas été associé à cette maison des associations.
La galerie, je ne
sais pas. La galerie d'art, aujourd'hui, il y a une galerie d'art.
Non, mais il ne sera plus.
Il ne sera plus. Mais vous lisez le futur. Moi, je ne sais rien.
Oui, ah, mais c'est vous qui me l'avez dit. Hein. Le service culturel va déménager après.
Oui.
Et la galerie va rester à Morastel.
Et la galerie, elle restera à Morastel.
Et la dernière fois, on m'avait dit le contraire.
Alors, je vous ai dit qu'on verrait quel en serait l'usage. Le service culturel, oui, il ira à Morastel. D'accord. Il ira à Prévert, bien entendu.
Mais voilà, c'est pour dire que cette maison des associations manque de débat préalable. Voilà.
Si ce n'est que la configuration de l'espace cantonnée dans une rénovation, monsieur Bouquet, on ne fait pas ce qu'on veut. Et effectivement...
Oui, mais on identifie les besoins, quand même.
Les besoins, ils sont identifiés. Voilà.
On a quand même créé des ateliers. Il y a eu trois ateliers. Il y a eu une demande de présentation pour faire partie du comité de pilotage. On en avait trois. Et on n'était pas venu, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu trois comités de pilotage. Il y a eu les ateliers de thé. Tout le monde a participé, on a tenu compte d'ailleurs, on a revu certains travaux par rapport aux remarques qu'il y a eu. Donc il y a eu des appels, ça a été fait. Vas-y, pour Madame Moulin pour la galerie d'art.
Moi, monsieur Moulin, je suis très étonné, un homme de culture comme vous, il me semble que repositionner un service culturel au centre-ville, c'est-à-dire au centre de nos administrés, hein, de façon à ce que les gens aient un accès à la culture qui soit facilité, je pensais que vous seriez, comment dirais-je, enclin et favorable à ce projet.
J'ai pas dit que j'étais contre.
D'accord. Ce qui vous dérange, c'est la galerie d'art. Alors, est-ce que vous vous êtes éventuellement posé la question de les expositions? Une exposition ne peut se faire, d'après vous, que dans une galerie d'art, si je suis votre raisonnement.
Moi, je pense que Mouguio a besoin d'avoir une galerie, et une galerie en centre-ville, parce que je pense qu'à Morastel, elle est mal placée, de toute façon.
Voilà. Donc, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être mises en place. On a une richesse patrimoniale qui est extraordinaire sur Mouguio. On a des lieux patrimoniaux qui peuvent être investis. Et je pense que les expositions, on peut avoir, je dirais, un double effet en investissant en premier lieu ces lieux patrimoniaux pour y faire des expositions, et en deuxième lieu, avoir un accès facilité tous nos administrés. Et là, la viabilité d'une galerie d'art qui est complètement excentrée me semble beaucoup moins importante et opérante.
On pourrait la faire à la place de la SPLA, puisque la SPLA va déménager aussi.
Si ce n'est que la SPLR, la SPL est en location, ça coûte quand même pas loin de 2000 euros par mois, mine de rien, et qu'aujourd'hui, de la même manière qu'il y a ce qu'on appelle les théâtres de rue, et que le théâtre n'est plus le sacro-saint lieu où se déroulent toutes les pièces de la première à la dernière, on peut imaginer, comme l'a dit Mme Moulin-Trafort, effectivement, investir des lieux publics dans lesquels on a aussi des expositions. Et vous verrez que quand la culture va vers les gens, c'est peut-être mieux que quand les gens vont vers la culture à défaut qu'ils y arrivent. Bon, après, je dirais que c'est une conjugaison peut-être des deux. Des
non, mais les deux sont bien, les expositions itinérantes, c'est très bien.
Voilà. Bon. Bien.
Madame l'adjointe, si vous aviez besoin de soutien pour maintenir une galerie permanente à Morastel, nous serions à vos côtés. Si vous vous battez pour avoir des expositions temporaires, je pense qu'à l'usage, vous verrez que les expositions temporaires qui auront un coût seront toujours chicanées par ceux qui trouvent que l'argent est rare.
Pourquoi temporaire, M. Poirier? Si on investit un lieu patrimonial, quelle est la différence entre la galerie d'art à Morastel et un lieu patrimonial au sein du village?
Parce que vous n'aurez pas les moyens de recréer, parce que la commune est beaucoup moins riche qu'avant. Ce que vos prédécesseurs ont eu les moyens de faire, c'est-à-dire de créer une galerie d'art, vous n'aurez pas les moyens de créer un lieu dédié à l'art. Et le fait de prendre le risque de fermer un lieu dédié à l'art c'est le fait de risquer d'avoir un lieu d'exposition en moins. Je vous donne ce conseil. Vous avez vu qu'on n'est pas allé sur la polémique. Et je vous redis, madame, que si jamais vous aviez besoin d'alliés pour protéger cette galerie, nous serions à vos côtés.
Je vous remercie, monsieur Palais, mais je voulais juste préciser quelque chose. Pour pouvoir côtoyer tous ces artistes depuis que je suis élue, je vais vous dire une chose, c'est que la galerie d'art à Montarcel, certes, elle est très belle, elle est très grande, c'est aussi une galerie qui fait peur aux artistes. Parce qu'effectivement, quand on a un volume comme celui qu'on a à Montarcel, c'est très compliqué pour un artiste de pouvoir l'investir de façon importante. Donc on se prive aussi de nombreux artistes auxquels cette salle fait peur. Donc on essaie de trouver aussi...
Elle est très bien,
c'est vrai. Bien, nous aurons l'occasion...
Voilà. Réfléchissez à la protéger.
Allez, je clôt les échanges. Vous avez bien échangé les uns et les autres. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour vous exposer notre politique culturelle et voir comment nous y prenons avec, justement, toutes ces choses-là. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, même...
Alors, c'est la même chose en ce qui concerne l'extension du poste des locaux du poste de police de Carnon dans les locaux qu'occupait précédemment le CCAS. Est-ce qu'on vous demande de bien vouloir autoriser le maire à déposer la déclaration préalable afférente à l'extension de ces locaux?
Autre question? On vote? Contre? Abstention? Je vous remercie. La police est unanimité. C'est bien. Plus que là. Point numéro 21.
C'est l'intégration dans le domaine public de la parcelle CO 675. Cette parcelle qui est actuellement la propriété de monsieur Ruff Max, qui a déposé un projet à permis de construire, c'est une bande de terrain qui est située le long de la rue de la Rave, d'une superficie de 31 mètres carrés. Bien sûr, elle est affectée au trottoir de cette rue. Donc, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'acquisition à l'euro symbolique de cette parcelle pour la verser dans le domaine public.
Bien, c'est une régularisation. Bon, qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Le point 22, Bernard.
Alors, après, c'est l'avis de la commune de Mauguio sur une installation classée pour la protection de l'environnement. Captage de vauguerre et usine de traitement de l'eau potable. Monsieur le préfet nous a transmis le 2 novembre 2017 une demande d'autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement et de déclaration d'utilité publique au titre du Code de la santé concernant le projet de captage et le rejet des eaux de lavage des filtres de l'usine de traitement d'eau potable à Vauguerre. L'agglo du Pays de l'Or, qui est compétente en la matière, a approuvé ces opérations par délibération de juillet 2014 et avril 2015. Elle a sollicité l'ouverture d'une enquête publique qui se déroule actuellement, puisqu'elle a comme date le 28 novembre et fin le 5 janvier 2018. La demande d'autorisation précitée met fin à la recirculation des eaux des filtres au profit de leur rejet dans le milieu naturel après décantation. Et la déclaration d'utilité publique concerne les travaux de captage des eaux souterraines afin d'assurer l'alimentation en eau potable et l'instauration des périmètres de protection et servitude qui en résultent. Il vous est demandé de donner un avis favorable sur ces deux questions.
On passe au vote. Contre? Abstention? Je vous remercie pour ce nouveau périmètre. Ensuite, le point suivant, Bernard.
Alors, il s'agit de la ZAC de la Fond de Mauguio, de la synthèse de la participation du public par voie électronique et de l'approbation du dossier de création modificative. Conformément aux nouvelles dispositions du Code de l'environnement, la commune a mis à disposition du public le dossier d'évaluation environnementale de la ZAC de la Fond de Mauguio, une première fois du 29 juillet au 11 septembre, dans le cadre de la concertation, et après l'obtention de l'avis de l'autorité environnementale, une deuxième fois, du 20 octobre au 18 novembre. Le public a eu donc 4 mois pour consulter et formuler des avis sur cette évaluation environnementale. Une synthèse des observations est annexée à la présente délibération. Elle sera donc publiée sur le site internet de la mairie. Ces observations, avec celles de l'autorité environnementale, ont permis de compléter l'étude d'impact, notamment sur les points suivants, l'explicitation du programme de construction, la justification de l'absence de solutions foncières alternatives, l'impact acoustique du projet, l'appréciation de l'insertion paysagère du projet et la compatibilité du projet avec les réseaux d'eau potable et eau usée. Enfin, le dossier de création modificative qui est joint en annexe a également été mis à la disposition du public. Il doit donc faire l'objet aujourd'hui d'une appropriation par le conseil municipal afin d'acter définitivement de la réduction du périmètre de la ZAC. Il sera ensuite suivi d'un dossier de réalisation qui entérinera le programme des équipements publics et le programme définitif des constructions. Voilà. Donc il vous est donc demandé, premièrement, d'acter que les modalités de la participation du public ont été intégralement mises en œuvre et que la participation du public a été effective, d'approuver le dossier de création modificatif annexé à la présente délibération, d'approuver la délimitation du périmètre de la ZAC conformément au plan périmétral présent dans le dossier de création et annexé à la présente délibération, et d'approuver conformément à l'article L122-11-1 du Code de l'environnement les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou à réduire et si possible à compenser les effets négatifs notables tels que décrits à l'étude d'impact jointe au dossier de création modificative. Et enfin, d'approuver les modalités de suivi des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine.
Merci Bernard. Bon, c'est une procédure à laquelle nous sommes rompus. Des questions ? Passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point suivant.
Point suivant. Et oui, le point suivant a fait l'objet d'un modificatif qui vous a été envoyé. Je pense que vous l'avez reçu, j'espère, aujourd'hui. Donc il s'agit, c'était simplement parce qu'il y avait une erreur matérielle de calcul dans la surface des parcelles. Pardon. C'est simplement pour ça qu'il a été envoyé seulement aujourd'hui. Alors, il s'agit de la rétrocession des parcelles, au profit de la commune de Moguio-Carnan. La commune de Moguio-Carnan a créé par délibération en date du 19 décembre 2011 la zone d'aménagement concertée de la fonte Moguio. Bon, vous connaissez toutes les évolutions. Par délibération du 2 octobre 2017, la commune de Moguio a approuvé le bilan de la concertation et fixé les modalités de participation du public par voie électronique concernant l'évaluation environnementale du projet de la ZAC de la Fonde Moguio. Donc, sur la base du périmètre initial de la ZAC, la SPL Laure Aménagement avait fait l'acquisition de parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération et dont une partie se situe désormais en dehors du périmètre modifié de la ZAC, suite bien sûr à la modification du périmètre. Conformément à l'article 13 de la concession d'aménagement et à l'avenant numéro 2 approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2017 et signé le 10 juillet 2017, la SPL Laure Aménagement doit désormais céder à la commune de Moguio-Carnon ses terrains dès lors qu'ils sont situés en dehors du périmètre de la concession puisqu'elle n'a pas le droit de les conserver. Donc vous avez un tableau qui énumère les parcelles concernées. Les services des domaines ont évalué le 29 septembre 2017 l'ensemble de ces parcelles à 5 euros le mètre carré, soit 556 570 euros compte tenu de leur caractère désormais inondable, avec une marge d'appréciation de plus ou moins 20%. Il est, par conséquent, proposé de racheter à la SPL leur aménagement ces terrains tels qu'ils seront issus de la division, si avant mentionné, pour un montant global de 556 570 euros. Monsieur le maire précise que la vente interviendra aux conditions suivantes. Ces terrains seront cédés aux conditions habituelles en matière de vente d'immeubles et le paiement interviendra comptant au jour de la signature de l'acte authentique. Tous les frais, droits et honoraires auxquels pourra donner lieu la cession seront supportés par la commune de Mogio. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, on vous demande d'approuver l'acquisition par la commune à la SPL de réaménagement des parcelles listées ci-avant et autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Voilà, donc, merci Bernard. Avant de vous donner la parole, donc, en résumé, on passe de 31 hectares à 19 hectares. On passe d'une enveloppe de 3 millions d'euros pour la commune, de 3 millions d'euros à payer par la ZAC Fonds de Mogio pour les 31 hectares, à 1 million d'euros pour la commune, 500 000 euros pour les travaux relatifs au fossé, plus les 556 000 de la vente. Donc on passe à 1 million d'euros de participation pour la commune, en sachant que ces terrains ne sont pas perdus. Ce sont des terrains qui vont servir à l'agroécologie. Il va y avoir un projet agroécologique là-dessus, qui sont également des mesures compensatoires obligatoires que l'État nous aurait demandé d'une manière ou d'une autre. On l'aurait fait sur notre lieu, bien entendu. Voilà. Donc, ce sont des dispositions réglementaires qui font qu'aujourd'hui, eh bien, nous nous trouvons avec une opération qui est diminuée, qui répondra moins aux enjeux du PLH, mais qui permettra quand même de préserver un poumon vert dont l'intention au départ était quand même de consacrer un tiers de cet espace à des espaces verts. Voilà. Donc, si vous avez des questions, monsieur Bourguet.
Moi, j'ai une question, parce qu'on a déjà parlé de ça la dernière fois, il me semble.
Oui.
Mais ce n'était pas ce tarif, donc ça veut dire que suite à l'avis des domaines, le prix de rachat a baissé, c'est ça?
Non.
La dernière fois, c'était 730 000, là maintenant, c'est 550 000.
Non,
il y a un truc que je n'ai pas compris. Bon, avec ma tablette, je ne peux pas accéder au dossier passé.
C'est 5 euros le mètre carré qui a été décidé par l'État, par les domaines.
Par les domaines.
5 euros pour les domaines, oui. D'accord. Absolument. Oui. Et on est à 556 000 euros.
Vous savez qu'on avait déjà voté.
Non, non. Là, ce dont on acte aujourd'hui, c'est la rétrocession. C'est l'acquisition.
Oui, j'ai compris.
Voilà. Voilà. On en a débattu une fois et une autre. Voilà. Donc là, c'est la dernière, j'allais dire, la dernière touche avant qu'on attaque les travaux avec d'abord la désignation des attributaires pour les lots. Pour les grosses escalopes. Aujourd'hui, on travaille avec l'agglomération du Pays de l'Or par rapport au positionnement sur les zones de captage pour laisser assez de place, et ainsi de suite. Donc, l'implantation définitive des lots n'est pas encore fait. L'aménagement général est déjà mis en place, mais les attributaires ne sont pas encore désignés. Il va y avoir un appel à concurrence et j'aurai certainement de bonnes nouvelles pour M. Pradel, puisque de travailler justement à l'observation de PLH et à la production des bons pourcentages. On a remouliné nos prévisions.
Bon, le raménagement a perdu 2 millions d'euros dans cette affaire. Comment ils vont le compenser? Ça veut dire qu'on va faire des logements plus chers, plus luxueux?
Non, on a, si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure, M. Bourguet, on a moins de travaux hydrauliques, moins d'achats de terrain, bien entendu, moins de travaux hydrauliques, moins de VRD. Et c'est surtout que la condition sine qua non.
Moins de logements.
De là. Et oui, on aura de moins de logements. Oui, on aura cette.
Mais 2 millions d'euros qui sont perdus dans la nature, là.
Comment? Non, ils ne se perdent pas. L'opération, M. Bourguet.
Oui. Le raménagement, ils n'ont pas acheté 5 euros, ces terrains.
Et la bonne affaire, elle est pour la commune, finalement.
Non, parce que quand il y aura des déficits, c'est nous qui les payerons. Hein.
Quel déficit?
On verra dans 3 ou 4 ans.
Monsieur Bourguet.
Pour le moment, il y a 2 millions d'euros qui sont partis dans la nature. On ne peut pas dire le contraire.
Non, ils ne sont pas partis de la nature. Ce sont 2 millions d'euros qui potentiellement devaient être affectés plus un à des travaux que nous ne ferons pas, puisque nous n'avons plus besoin de les faire, puisque la zone de constructibilité est réduite. Voilà.
Et oui, mais on a moins de mètres carrés à revendre.
Oui, monsieur. Oui, c'est-à-dire
que
l'ensemble de l'opération sera moindre que ce qu'il aurait été. En revanche, le travail qui est fait sur la densification permettra, sur les lots, permettra de garder un équilibre à l'opération qui est l'équilibre initial. Et je vous invite
On n'a pas, on n'a jamais eu de budget prévisionnel de l'opération globale. Un plan de financement, de dire voilà.
Le compte rendu.
C'est normal qu'on soit inquiet sur le financement de cette opération.
Monsieur Bourguet, vous semblez oublier, oublier que chaque année nous votons, nous présentons le compte, ce qu'on appelle le CRAC, le compte rendu à la collectivité.
Oui, bien,
mais vous savez quoi? Tout à l'heure, j'étais avec ma directrice et nous avons conversé bien entendu sur le fait que ce point est à l'ordre du jour. Vous êtes le bienvenu à leur aménagement, si vous voulez, les renseignements, sans aucun problème. Et je vous le dis vraiment.
Moi, je voudrais savoir s'il existe un montage financier de l'opération à 10 ans.
Oui. Voilà. Oui. L'opération ne souffrira pas d'une contribution de la commune, si c'est ce qui vous préoccupe, pour, par rapport à ces 2 millions qui semblent vous poser problème. Votre rôle. Votre rôle est d'être vigilant, comme le nôtre aussi.
C'est ça.
Le nôtre est d'être vigilant, d'arriver à produire des logements et d'arriver à avoir une opération qui se satisfait. Parce que il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui avec l'avenue Jean Moulin, des travaux qui se font grâce à l'opération et qui, de toute façon, auraient nécessité des contributions de la part de la commune. Souvenez-vous, on a toujours dit que l'amélioration du bassin versant des conditions hydrauliques. Certaines étaient déclenchées par l'urbanisation d'une certaine surface, et à la faveur de cette urbanisation, on règle des problèmes, de la même manière qu'on va régler quelques problèmes, je l'espère, avec les ports de l'aéroport, du côté de Bruyères, pour arriver à faire des travaux compensatoires. Il y a toujours des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires viennent justement soit plaider pour la transparence hydraulique, au pire, mais au mieux, et c'est ce que nous souhaitons, améliorer l'existence. En l'occurrence, là, ça va contribuer à améliorer l'existant. Ouais. Mais il n'y a pas de souci.
Donc, je peux aller voir
Madame Oui, Thaubry. Même si vous voulez, je vous prends le rendez-vous, il n'y a pas de souci, M. Bourguet. Et elle le fera de bon cœur, parce que nous préférons débattre en toute objectivité, échanger et rassurer si vous êtes inquiet. Ensuite, si vous critiquez, si vous avez un esprit critique les uns ou les autres sur des options qui ont été choisies, C'est le rôle de la démocratie que de les permettre. En revanche, la justification d'une politique dispendieuse ou la crainte de se voir engagé dans quelque chose qui va coûter au contribuable est une préoccupation que je partage comme à vous et que vous avez le droit de contrôler. Ça s'appelle le contrôle analogue. Le meilleur contrôle qu'on puisse faire, c'est celui, des fois, des élus de l'opposition qui disent « Mais attendez, comment ils ont dépensé l'argent, à qui ils l'ont donné et comment ?» C'est tout à fait normal. Et j'y suis prêt. Voilà.
D'accord.
Il n'y a pas de souci, monsieur le président. Je vous remercie de la tenue de ce débat. Parce que parfois c'est polémique, parfois c'est pour rien, parfois c'est pour rire. Là, je sens que vous êtes sérieux. Ça me fait plaisir.
Ah oui.
Non, vous n'êtes pas dans une posture.
Non.
Vous êtes dans une préoccupation.
Bien sûr, c'est normal.
Et je suis sûr que même quand vous êtes seul, vous y pensez.
Oui.
Et pas seul. Jamais seul. Je me seul.
Non, mais vous avez raison.
C'est un seul.
De toute façon. Je suis un constructif.
Madame Sanchez-Bresson, elle tweet déjà. Elle va la moyenne, M. Capelli. Voilà, donc je vous propose d'adopter cet achat, si vous êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point suivant.
C'est toujours la ZAC de la Fonde Mondiale. C'est l'enquête publique unique portant sur la déclaration de l'utilité publique de l'opération, valant mise en compatibilité du flux et l'enquête parcellaire des terrains situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC et la demande d'autorisation environnementale. La réglementation prévoit que l'ensemble des procédures au titre du Code de l'environnement, du Code de l'urbanisme et du Code de l'expropriation doivent faire l'objet d'une enquête publique unique. Alors, ces procédures au titre du Code de l'environnement, ce sont les procédures et décisions requises pour les projets qui sont soumis à la loi sur l'eau. Les procédures au titre du Code de l'urbanisme, c'est la mise en compatibilité du PLU, puisque aujourd'hui la ZAC est actuellement classée en zone AU, donc ça veut dire à urbaniser, donc avec une urbanisation future bloquée pour l'instant. Donc elle va passer en zone 1 AUD, qui sera une zone urbanisable sous forme d'aménagement d'ensemble. Les procédures au titre du Code de l'expropriation, vous savez que nous avons délégué les missions d'acquisition des terrains à l'EPF, à l'établissement public foncier, Donc ces procédures d'acquisition, ce sont la procédure à l'amiable, bon là il n'y a pas de problème, mais aussi la préemption et l'expropriation. Pour l'expropriation, il est nécessaire, l'expro doit faire l'objet d'une DUP pardon, et d'une enquête parcellaire. Donc ce sont ces conditions-là qui doivent faire l'objet d'une enquête publique, donc toutes les trois ensemble, hein, code de l'environnement, code de l'urbanisme, code de l'expropriation, afin d'en faciliter la compréhension et la visibilité du public sur ces projets. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de ces procédures sont soumises à votre approbation et que l'enquête publique unique est soumise à votre approbation.
Voilà. La DUP, elle est sur la phase 1 et la phase 2. Elle est sur l'ensemble de la...
Oui.
Sur l'ensemble. Combien il y a de... Ah, en gros, il y a combien de parties qui vont être à l'amiable et combien de parties qui vont être expropriées? Vous ne savez pas du tout.
On ne sait pas trop, non. Enfin, la majorité, je pense, sera acquise à l'amiable. Hein. On en avait acquis déjà une partie. Hein.
Mais après, on marchera sur le
Oui. Oui, on espère avoir tout à l'amiable, mais bon, il peut effectivement. Mais la DUP prévoit quand même les trois formes de, d'acquisition, puisqu'on ne va pas revenir dessus après, quoi. Mais on espère bien pouvoir acquérir à l'amiable, ce qui serait quand même assez étonnant, parce qu'on sait quand même qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas décidées.
On essaie depuis plus d'un an, par exemple, il y a un agriculteur qui a un hangar, on essaie de lui trouver une solution. Vous voyez, on est sur place, hein. On essaie, il comprend, mais après, il essaie de faire valoir ses droits aussi. Ce qui est
recevable.
Voilà. Mais on fait tout pour que ça se passe bien. Voilà. En sachant quand même qu'il y a une indemnité qui lui permet de trouver la solution de remplacement éventuellement. Enfin, nous essayons même de trouver des échanges auprès de la SAFER. On est allé avec la directrice, avec la chargée d'opération. Il y a un dialogue constructif. Alors, j'espère qu'on débouchera sur des dispositions qui conviendront aux uns et aux autres. On passe au vote, si vous voulez bien. Contre ? Abstention ? Merci. Les murs qui dansent, Bernard ?
Les murs qui dansent. Donc, je n'arrive plus à avoir la délibération.
Allez, c'est ta dernière.
Alors oui, il s'agit de participation aux travaux d'extension du réseau électrique pour la STI, les murs qui dansent. Vous savez, c'est habituel, hein, c'est pas la première fois qu'on passe ça. La création de la STI, les murs qui dansent, et du bâtiment qui les abrite, nécessite l'extension du réseau électrique pour un montant de 5 098,44 €. Suite au permis de construire qui a été accordé à Mme Mons le 28 juin 2016 pour la réalisation de cette salle de danse. Donc nous vous demandons d'approuver l'avance de la commune. La commune va payer la première dépense et y mettre le titre de recette pour se faire rembourser par le pétitionnaire comme traditionnellement. Voilà.
Merci Bernard pour ces rênes exceptionnelles. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je remercie Bernard. Bernard, si tu veux, tu peux te retirer parce que tu n'es pas bien. Je te remercie d'avoir assuré le. Merci. Et tu donnes la procuration, Madame Gély. À Laurence.
Tu viens d'arriver, tu es au boulot.
Oui, voilà, c'est les chaises musicales, puisque ce sont les murs qui dansent. La transition est faite. Merci Bernard. Monsieur Cravert, Jacques, parle-nous de Héro Énergie, s'il te plaît.
Oui, c'est qu'on appelle, c'est pour l'installation de bornes électriques pour les véhicules. C'est le transfert de compétences, de maîtrise aux ouvrages et de maintenance des infrastructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides Héro Énergie. L'engagement de la commune est le suivant, la gratuité du stationnement pour les véhicules, la participation financière estimée entre 7 000 et 10 000 euros en fonction, disons, du point de livraison pour l'installation de bornes. C'est un plan qui s'y joint. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le transfert de la compétence et maîtrise d'ouvrage, d'adopter les conditions administratives, financières ainsi que la gratuité du stationnement, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Merci Jacques. Pas de questions. On vote. Contre. Abstention.
Merci. Laurent, monsieur Tricoire, va nous parler de la mise à jour de tableau des effectifs.
Oui, donc pour cette mise à jour, les deux premiers postes vont être suite à l'avis favorable de la CAP. Donc deux emplois qui sont modifiés, un qui devient un emploi de bibliothécaire, un autre emploi de rédacteur. Et un troisième emploi qui est modifié pour raison médicale. Donc on vous demande d'accepter de libérer pour cette mise à jour des tableaux des effectifs.
Alors effectivement, mais pas les noms des personnels. Voilà, c'est un principe sacré. Vous êtes d'accord ? Contre, abstention, merci pour eux. Continue Laurent. On pensait que les agents recenseurs nous le feraient gratuitement et puis finalement non. Ils préfèrent qu'on les paye pour recenser la population 2018. Donc monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu'en application de la loi, nous allons engager 4 agents qui ont été désignés et une dotation de 3 662 € qui sera versée à la commune par l'INSEE pour couvrir l'ensemble des charges liées à cette opération. Monsieur le maire propose de répartir cette somme aux 4 agents recrutés, soit 915,50 € chacun, et demande à l'Assemblée d'adopter cette proposition dans tout son contenu.
Voilà, ce sont des agents volontaires.
Oui, madame Comarnos.
C'est quelle partie du territoire de la commune qui va être recensée?
Bonne question. Tous? Non? Attendez, attendez. Canon Ouest? Vous, si vous voulez, elle veut peut-être le payer, madame.
Non, non, parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit cette information, mais moi, j'ai pas vu d'enquêteur, donc voilà, je demande.
Ils arrivent tard, madame Comarnos.
Échantillon pour l'enquête 2018. Mais on ne peut pas vous répondre, hein. Présentement, mais on vous le mettra bien sûr dans le compte rendu. Si d'ici la fin du conseil, on a l'information, mettre tous nos faits limiers sur la piste, je vous dirai, ça m'a pas interpellé. Hein? On ne sait pas. Pourquoi? Donc, on désigne des personnes, on les rémunère, mais on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Je résume, quoi.
Non, mais où elles vont travailler?
Ça m'agace. Bon, écoutez, pardon. Normalement, c'est par secteur, effectivement, mais je suis incapable de vous dire. Mais c'est quand même qui le décide, ou c'est l'INSEE qui le demande?
Non, c'est l'INSEE.
Donc, nous sommes dans l'attente de... Alors, je vais vous faire la bonne réponse. Le reste, vous l'oubliez, je ne l'ai pas dit. Nous sommes dans l'attente de la bonne des indications que l'INSEE va nous donner pour savoir où on les a, moi. Voilà. C'est l'INSEE qui les a, moi. C'est ça. Bon. Allez. Je vous propose quand même de voter le principe de la rémunération de ces braves gens. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Madame Moulin-Trafort. Parti.
Alors, les délibérations sur les ouvertures dominicales et la détermination des différentes dates de ces ouvertures. Alors, en vertu de la loi Macron du 6 août 2015, les commerces ont la possibilité d'ouvrir le dimanche sous certaines conditions. Nous vous proposons ici, dans cette délibération, d'accorder 12 dimanches d'ouverture, qui est le maximum autorisé pour le commerce de détail, et 5 dimanches pour la branche automobile. Voilà, je vous ai donc proposé d'autoriser l'ouverture dominicale des commerces sur Morieux-Carnot selon les dates qui sont mentionnées dans ce projet de délibération.
Merci. Alors, c'était vu également par l'aglo. On passe au vote pour cette ouverture. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Laura, tu dis qu'on est en conseil, que je puisse donner l'information. Bon, un sujet qui concerne tout le monde, dont je vous parlerai en fin de conseil. On a voté. Allez, au suivant, l'association Cinéplan.
Oui, c'est la convention de partenariat avec l'association Cinéplan pour l'année 2018. Alors, il est proposé un partenariat entre la ville et cette association pour une programmation du cinéma chaque mois, le mardi à 20h30, avec une offre culturelle qui est élargie, qui est diversifiée et qui surtout est à des tarifs accessibles pour nos administrés. Donc, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat avec l'association Cinéplan pour l'année 2018.
Ça marche. Votre abstention. Merci. Alors, je vous donne. Alors, le correspondant, pour le point qui précédait, le correspondant RIL de votre commune recevra prochainement sur support informatique la liste des adresses de votre commune à enquêter lors de l'enquête de recensement de l'année 2018 via l'application Omer, la base de sondage, adresse dénommée BSA.com pour l'enquête de 2018, à partir de laquelle ont été triées les adresses à enquêter, le fichier issu du répertoire d'immeubles classés millésimé 2017 ayant servi à la constitution de la base de sondage adresse pour l'enquête 2018, comme c'est un sondage. Ce RIL a été mis à jour en continu dans le cadre des échanges entre le correspondant RIL de votre commune et service à direction générale régionale de l'INSEE et confirmé à la suite de l'expertise réalisée en juin. Et ensuite, il y a une présentation de ces fichiers. On ne pourrait pas vous répondre parce qu'on n'a pas la réponse.
C'est pas par secteur, c'est...
Non, non. Mais certainement que ce sera des secteurs. D'habitude, c'était des secteurs. Mais là, ça ne veut pas. L'application au maire.
Non. Merci, c'était mon père. Non, parce que ça serait intéressant de voir l'évolution quartier par quartier, si c'est quartier par quartier, quoi. C'est... On verra. Si c'est, on prend le troisième étage et le cinquième,
Voilà. Le point 32, parti toujours.
Alors, le point 32, c'est le projet d'une demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault dans le cadre de la restauration des documents d'archives. Donc, la ville sollicite une subvention pour une participation financière auprès du conseil départemental pour la restauration de nos archives, puisque suite à une visite d'inspection par les archives départementales, il nous a été demandé de procéder à la restauration de certains documents qui en avaient plus besoin que d'autres. Cette restauration s'élevant à un montant de 2 692 € hors taxes, nous demandons une aide financière par le biais d'une subvention à hauteur de 50% de ce montant au conseil départemental de l'Hérault.
Voilà. Oui, je précise que l'ère de la dématérialisation n'a pas encore touché toutes les données et qu'effectivement, un grand soin est apporté à la conservation des archives par nos collaborateurs. Madame Berthelot l'avait commencé il y a quelques années. Et maintenant, c'est Cyril... j'imagine son nom. Milkan. Il s'en occupe, enfin, pas tout seul, mais enfin, en tout cas, il consacre beaucoup son énergie et je le salue.
Les archives, on les a gardées jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à quelle année? Pardon?
Jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à quelle hauteur?
Pardon? On n'a pas fait de versement aux archives de départementales?
Si, mais de temps en temps, on liquide. Combien? 50 ans?
C'est 20 ans?
Non, ça fait. À mairie, on me dit qu'elles ont plus de 50 ans. Oui.
Donc,
les permis depuis 47. Regardez, ça fait 70 ans.
Donc,
oui. Il y a celle qu'on garde et celle qu'on donne. Ça fait passer une chanson que je vois. On chantera après. Monsieur Bourguet nous fera les arrangements. Alors, on vote pour cette disposition. Contre, abstention, merci. L'attribution de la subvention, Béatrice Faucompré.
Alors là, il s'agit d'une attribution d'une subvention pour l'association Dessine et ses gagnés
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal sa volonté de développer la promotion de la langue des signes pour les jeunes enfants en soutenant l'association locale Des Signes et C'est Gagné. Il propose en effet de verser une subvention de 400 euros à cette association pour son fonctionnement et l'organisation de manifestations. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le soutien à la promotion de la langue des signes auprès des jeunes enfants avec le versement d'une subvention de 400 euros à l'association Des Signes et C'est Gagné.
Merci Béatrice. J'aurais aimé que tu nous fasses le poème. Eh oui.
En langue des signes.
En langue des signes.
Non, je ne suis pas encore une experte.
Non. Elle intervient où, cette association?
Alors oui, je peux vous faire un petit point sur l'association. Donc, c'est une association maigorienne qui a été créée en 2015 sur la commune et qui organise des ateliers donc de communication gestuelle associée à la parole. Donc, pour des enfants à partir de 9 mois. Donc, on apprend aux bébés à signer avant même qu'ils puissent acquérir la parole. Donc, c'est un outil de communication, en fait, et qui est aussi utilisé en milieu scolaire, par exemple. On peut le voir dans les cantines pour faire baisser le niveau sonore. On apprend aux enfants donc à signer plutôt qu'à parler tous en même temps. Donc c'est sur le versant du handicap, mais c'est également un outil de communication qui se développe énormément. Et cette association sur la commune initie déjà des projets, il y a déjà des spectacles et des ateliers. Et on trouvait que c'était intéressant de pouvoir développer une cohésion avec tous les partenaires qui se trouvent sur la commune, que ce soit au niveau du scolaire, des crèches ou même de la médiathèque, et de faire des ateliers donc pour le jeune public en langue des signes. Voilà.
Alors, Béatrice, tu peux voter?
Ah, alors on demande à monsieur le maire d'autoriser.
Non, mais.
Ah, non, alors comment je vais voter?
Bon, contre abstention, je vous remercie, Béatrice.
Voilà. Et merci, Sam.
Cette disposition s'inscrit dans tout ce qui est fait par l'office de tourisme et tout ce qui est fait au niveau du handicap, de l'intégration à Carnon et à Mongion, et au niveau des écoles également, avec ce que fait Sophie et le service de pédagogie. Suite de l'antépénultième point, les agents, les personnes consultées sont tirées au sort dans diverses strates de la commune. C'est-à-dire que l'INSEE tire au sort, donne la liste aux agents recenseurs et qui vont sonder ces gens. Voilà. C'est même pas un secteur. C'est fait de manière aléatoire. Et là, vous voyez, celui qui nous répond, c'est la personne qui est en charge du cadastre, qu'on a dérangé, mais qui répond. Belle illustration du service public. Voilà.
Merci.
Voilà. Vous remerciez M. Martinez. Point suivant. Point 35, Madame Campagne, Sophie.
Point 34, intervenant au milieu 34. Scolaire. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la ville est engagée dans une politique éducative ambitieuse et qu'elle soutient les équipes enseignantes pour mener à bien leurs projets d'école. Dans ce cadre, la commune participe aux charges liées à la venue d'intervenants extérieurs œuvrant durant le temps scolaire sous la responsabilité pédagogique des enseignants par le biais de conventions dans des conditions renouvelées à l'identique par rapport aux années scolaires antérieures. Vous avez la liste des différentes associations qui ont été sollicitées cette année par l'ensemble des enseignants de la commune. Les crédits sont inscrits au budget et il convient d'autoriser M. le maire à signer les dites conventions avec les associations mentionnées dans la délibération.
Merci Sophie. Passe au vote, s'il n'y a pas de questions. Contre, abstention. Merci. On continue toujours avec les cas transplantés.
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu'en application du code général des collectivités territoriales et notamment de l'article L2121-29, la municipalité soutient les départs en classe transplantés, participe au financement selon les modalités identiques aux deux dernières années et que vous retrouvez mentionnées dans la délibération. Pour l'année 2017-2018, 306 élèves devraient partir en séjour pour un coût global qui s'élèvera à 34 248 euros. Il s'agit de 4 classes de neige, 5 classes de découverte avec nuitée et 2 classes de neige sans nuitée. Et l'ensemble des enseignants ont pu partir, on a retravaillé avec eux. On a une classe qui s'est finalement désistée parce que les parents étaient trop nombreux à refuser le départ. Donc ça nous fait une classe de moins que ce qu'on avait annoncé à la commission d'harmonisation. Mais sinon, on a également rencontré l'enseignant qui avait des envies. Et voilà, ça a fait des groupes qui ne partent plus au même endroit. Finalement, c'est intéressant. On a les écoles qui se regroupent pour partir ensemble. Donc ça contribue à faire des souvenirs communs aux élèves de la commune. Donc Monsieur le maire propose de signer les conventions avec les centres d'hébergement et les associations que vous retrouverez détaillées dans la délibération. Monsieur le maire informe que le nombre d'enfants participants peut évoluer en cours d'année selon les départs et nouveaux arrivants sur la commune et que les crédits sont inscrits au budget de la commune. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires scolaires à signer les conventions.
Bien, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Madame Sanchez, pour ce qui au vote. C'est l'autre ? C'est celui d'après ?
Point suivant, classe transplantée, convention avec le centre d'hébergement à l'école Notre-Dame. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que l'école Notre-Dame est une école privée sous contrat d'association avec l'État depuis le 4 novembre 1985. Vu la loi du... Je vais passer tous les détails, excusez-moi. Je vous propose de retenir qu'il convient de déterminer le montant de la participation de la commune pour le financement de la classe de découverte de l'école Notre-Dame. Le montant de cette aide est fixé à 80 euros maximum par enfant avec un plafond de 2000 euros par an pour l'ensemble des projets de l'école. Une convention en tripartite sera établie avec le centre d'hébergement, la commune et l'école Notre-Dame. La participation communale sera directement versée au centre d'hébergement des Coumes pour un séjour pour une classe de cycle 2 qui aura lieu du 29 janvier au 2 février, concernera 27 élèves. Les contributions ne sont donc qu'un cas supérieur aux avantages consentis par la commune aux écoles publiques de même niveau. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention.
On vote contre, abstention. Non, Madame Sanchez ne participe pas au vote. Il n'y aura pas de sous. Ariane, tu prends le point 37.
Il reste au point 37.
37.
Donc on est toujours sur les classes de neige. Et Monsieur le maire expose qu'il conviendrait d'accorder l'indemnité aux enseignants des écoles élémentaires qui accompagnent leurs élèves pendant les séjours de classe de neige. Il propose de fixer à 152,45 euros pour l'année scolaire 2017-2018 l'indemnité allouée à chaque enseignant. Pour 2017-2018, 4 enseignants partent en séjour du 11 au 16 mars 2018 à Saint-Léger-les-Mélèzes. Le financement de la dépense sera prélevé sur le budget de la commune. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir agréer sa proposition dans tout son contenu.
Bon, si vous êtes d'accord, on y va. Contre, abstention. Merci. Les bourses au projet méritoire, Ariane ?
Alors, la bourse au projet méritoire, donc, par rapport au projet éducatif municipal qui définit dans ses objectifs prioritaires de soutenir l'engagement des jeunes, leur autonomie et leur implication dans la vie citoyenne, nous proposons une bourse au projet méritoire à Sébastien Cassio, qui est un jeune de la commune passionné par la réalisation, la production et l'interprétation cinématographique. Donc il souhaite partager sa passion, son regard avec la population de la commune. Et donc il souhaite réaliser un court-métrage qui pourrait être projeté dans plusieurs salles, plusieurs festivals dédiés au genre. Son projet de film mobilise de nombreux jeunes de la commune, investis en qualité d'acteur, figurant, assistant son, etc. À ce titre, afin de soutenir donc, ce jeune dans son projet, il est proposé que lui soit versé la bourse d'un montant de 500 euros. Donc, il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le versement de cette bourse à M. Sébastien Cassio pour l'année 2017.
Pour la réalisation du film.
Pour la réalisation du film. Alors, il faut savoir que c'est un jeune qui s'est déjà engagé bénévolement dans la commune, etc.
Et il a du matériel, lui, ça fait...
Il en a déjà, oui, il en a, mais bon, il a besoin de se développer, de développer à ce niveau-là. Il y avait des petits films sur Internet, ça commence à marcher.
Vous faites l'enregistrer chez M. Mendy, je ne sais pas.
Je ne sais pas s'il n'y a pas des solutions.
Ah, d'accord. Bien, je vous invite à voter cette aide à ce jeune méritant. Contre, abstention, merci pour lui. Bourse au permis de conduire.
Alors, merci. Ben, non, bon. Alors, par rapport, donc, la dernière fois que nous avons voté en conseil municipal, nous avions modifié le cadre du permis de conduire. Vous avez expliqué pourquoi. Donc là, aujourd'hui, c'est pour autoriser donc, le versement des bourses au permis attribué nominativement. Donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, merci, c'était marqué en plus en haut. 8 jeunes d'un montant donc allant de 359 € à 600 €. Sachant qu'à chaque fois que nous attribuons cette bourse, nous sommes donc au CCAS en groupe de travail d'aide financière auquel participe systématiquement. Voilà.
Bien. Merci. On y va. Contre, abstention. Merci. Dominique, M. Balsamo, va nous parler du fond.
Programme de capitainerie de Carnon, avenant à la convention d'assistance maîtrise d'ouvrage avec la SPLA. Alors,
La SPL, pardon.
Donc là, c'est l'assistance de la SPL dans la déconstruction et reconstruction de la capitainerie. On avait eu trois candidats, le jury qui s'est réuni le 9 novembre, et aucun des trois projets n'a été retenu pour la capitainerie. Donc là, on va relancer une procédure pour faire appel à projet, etc. Et dans ce cadre-là, on signe un avenant avec l'assistance que nous fait la SPL dans le cadre de la déconstruction et la reconstruction de la capitainerie. Voilà l'objet de
l'ordre. Malgré la candidature de 45 ou une quarantaine de pétitionnaires, on n'est pas encore arrivé à trouver quelque chose qui soit compatible entre la fonctionnalité, le prix et un matériau aussi qui soit compatible avec le fait que la portade se dépieux, quelque chose qu'on a regardé, on voulait quelque chose qui ne soit pas trop lourd. On n'est pas arrivé à trouver quelque chose d'emblématique qui, si vous voulez, restaure une image de Carnon. Enfin, quand je dis restaure, donne une image différente du bâtiment qui était construit. Et Madame Rabinovici est également avec nous. C'est vrai que le jury a été unanime sur, malheureusement, le rejet des offres. Voilà. Donc, on est obligé de relancer, de refaire du benchmarking, de retravailler là-dessus. Voilà. Madame Comardi.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Oui.
C'est le montant de cette nouvelle.
Et c'est une mission, il faut relancer le concours, madame. On relance le concours entièrement.
Parce que.
C'est-à-dire que.
Le montant du concours relancé. Actuellement, il est de combien ?
25 000. On rajoute 25 000.
On relance le procédé.
On rajoute 25 000 pour l'étude.
Oui. Mais parce que il y avait 79 000 auparavant.
PTC, en face, ça faisait moins.
Non, je veux dire, Moi, j'ai deux documents. Sur une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
oui.
Un dont le montant TTC est à 32 000, voilà, et l'autre à 95 000. Donc,
vous l'avez joint le document.
C'est ce qui a déjà été payé, 95 000.
Voilà.
On rajoute pour une nouvelle mission.
C'est ça.
La nouvelle mission coûte 25 000 euros.
C'est ça, moi.
Voilà. Il y a une évaluation du temps de travail, du benchmarking, de remonter le dossier, de tout refaire.
Et donc, la première mission, c'était 79 000 ?
Non.
Non.
On a déjà payé 95 000.
D'accord. Ok.
Voilà, on a déjà payé.
Non, mais je croyais que c'était dans l'autre sens, je me suis mélangé.
J'espère que cette fois-ci, nous trouverons Voilà. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Le point suivant, Dominique, avec la convention FPS-Tarouz.
Oui, le point suivant, point 41, pardon. C'est la prolongation de la convention avec l'antenne Bouygues, qui est au niveau de l'école de Rouen. Donc, dans le schéma directeur, cette antenne risque d'être déplacée. Donc, on ne veut pas signer une convention de longue durée. Donc, on prolonge d'un an pour qu'on puisse assurer l'année 2018.
Et voilà. Surtout que les Camerounais bénéficient quand même du réseau de Bouygues Télécom, c'est vrai, ils ont eu.
En plus. Voilà. Voilà l'objet de cette.
On vote là, on vote contre, abstention. Je vous remercie. Le point 42.
Point 42. Alors là, c'est une différenciation tarifaire pour les catégories de bateaux, catégorie 5, c'est-à-dire les bateaux de plus de 9,50 m. Donc pour ces bateaux-là, vu la consommation d'énergie que l'on a, d'électricité, etc., le conseil portuaire a décidé de mettre des compteurs divisionnaires. Et dans ce cadre-là, de faire une tarification différenciée pour ces navires de plus de 9,50 m qui consomment l'électricité. Donc on propose d'avoir un forfait de base, un forfait fréquentation régulière et un forfait permanent. Donc c'est un petit peu pour réguler la surconsommation, parce que maintenant il y en a qui habitent à l'année sur les bateaux.
Oui, il y a des gens qui ont une forte consommation et qui se font payer le jus par le budget général. Voilà. Donc on trouve ça que c'est pas normal.
Donc on commence à mettre. Voilà. On a fait ça pour l'eau,
ça s'appelle pollueur-payeur. Voilà. Il n'est pas pollueur, mais le consommateur, c'est les amis qui payent. Voilà.
Et on a fait ça pour l'eau.
Donc, oui. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Merci Dominique. J'ai une information à vous communiquer, que j'aurais pu vous communiquer au début de conseil, mais comme on n'avait pas l'information, Laurent Tricoire la complétera. Vous savez que nous avions depuis plusieurs mois des circassiens sur l'aire de Grand Passage à la sortie de Mouguio. C'est-à-dire des personnes qui vivent et les métiers du cirque, qui occupaient illégalement cet espace parce qu'ils n'y sont pas habilités, puisqu'ils ont des bêtes et que les bêtes ne sont pas, d'un point de vue sanitaire, compatibles avec des séjours de personnes. Donc, après diverses mises en garde, ils ont accepté de partir sous la contrainte. L'agglomération a fermé, a pris l'arrêté pour fermer. Le préfet nous a aidés avec la gendarmerie. Et ils ont trouvé rien de mieux qu'à aller s'installer au Garrigue. Ils sont installés au Garrigue depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc nous avons avec la commune, avec le service de police, la gendarmerie, la direction générale, l'entrecôte, nous avons donc alerté les services, nous les avons rencontrés et on a obtenu en fait une plainte déposée de la part de Réseau Ferré de France qui est le propriétaire du terrain sur lequel ils sont, un terrain qui est voisin quand même de gens qui ont eu par le passé leur nappe phréatique polluée par les lixiviades qui arrivaient des Roms de Ramon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, sujet sensible. Donc, nous avons, avec Laurent Tricoire, rencontré la semaine dernière les personnes au Garrigue pour leur dire que l'affaire était en cours. Et là, le capitaine vient de nous donner une information comme quoi le référé qui avait été... Alors, la plainte a été étudiée, ordonnancée vendredi. C'était mis en délibéré. Et il a été convenu que le temps que la préfecture trouvait une solution, ils étaient tolérés. Il semblerait qu'ils se soient mis d'accord pour aller sur l'aire de Latte et qu'ils acceptaient de partir sur Latte à partir de demain, peut-être, c'est ça?
Demain. Demain matin, le départ.
Voilà. Donc, même en étant en conformité avec la loi, c'est des personnes, sociables, puisqu'ils ont travaillé pour la banque alimentaire, mais des gens qui ne sont pas respectueux du règlement, et pas respectueux surtout du voisinage. Donc, voilà, je tenais à donner cette information pour dire qu'on se préoccupait aussi de cela. Voilà. Et que, apparemment, les gens des Garrigues pourront passer de bonnes fêtes de Noël tranquilles. Mais non pas qu'ils aient commis des exactions, mais enfin, c'était interdit, il ne fallait pas qu'ils y soient. Voilà.
Je voudrais en profiter pour remercier les services de police de la ville et les services de l'État, la gendarmerie, qui qui travaillent de concert sur ces histoires de déplacement, mais aussi annoncer, c'est pas un effet d'annonce pour la presse, j'aimerais que ça reste entre nous, mais c'est une information. On a élucidé cette semaine, les services entre eux, la disparition de 80 vélos, quelque chose qui était présent depuis plus d'un an sur la commune, qu'on n'arrivait pas à résoudre. Cette semaine, c'est résolu. On n'a pas retrouvé les vélos, mais
il y a deux mois.
On est, voilà. On espère que ça se reproduira plus. Je conclue que notre adjoint au sport est un fervent contributeur à la grivellerie. Voilà. Bon, écoutez, on se quitte sur ces bons éléments. Je vous donne rendez-vous au 29 janvier, lundi 29 janvier, pour le débat d'orientation budgétaire. Je vous donne rendez-vous également pour les vœux à la population le vendredi 12 janvier. Et vous souhaite aux uns et aux autres de bonnes fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis.